Salut à toi, chers supporters olympiens. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast sur Massilia Zone, mais également pour un tout nouveau format discussion sur une thématique précise. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant qui anime énormément de débats au sein de la communauté des supporters de l'Olympique de Marseille. C'est celui de Pablo Longoria. On va revenir sur le bilan du président de l'Olympique de Marseille. Président qui est arrivé en 2021 en tant que président dans ses fonctions actuelles, mais qui avait rejoint le club olympien en tant que directeur sportif à l'année 2020. Et pour ce faire, j'ai avec moi aujourd'hui Yacine Youssefi, qui est intervenant chez FCM, que vous connaissez très certainement, et qui est également très présent sur Twitter. J'espère que tu vas bien, Yacine.
Salut Arilès, salut tout le monde. Mais je vais très bien, j'espère que toi aussi également. Et très heureux d'être avec toi pour cet échange.
Moi aussi, je suis très heureux d'en parler avec toi, Yacine. En plus, je pense que ceux qui te connaissent et qui sont actuellement en train d'écouter ce podcast, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ce podcast si vous voulez écouter de plus de contenu émission de Massilia Zone. On propose des talks chaque semaine, mais également ce nouveau format qu'on va essayer de développer. Je pense que ceux qui te connaissent se disent que c'est assez particulier de t'entendre sur Pablo Longoria, puisque ces dernières semaines, tu as eu un peu l'image de quelqu'un qui était très pro-direction. Et nous, à l'inverse, sur Massilia Zone, on a plutôt eu l'image d'un média qui se permettait de critiquer de plus en plus la direction. Et donc, dans l'esprit, évidemment, de proposer un débat pertinent avec deux visions, on va dire, assez différentes, hein, Yacine. Mais on se rejoint sur énormément de points. Ça va permettre, évidemment, de faire avancer le débat sur Pablo Longoria et de proposer, finalement, une analyse synthèse, un bilan assez général du passage de l'actuel président de l'Olympique de Marseille, qui, je pense, va plaire aux supporters. Et d'ailleurs, Yacine, sur ça, on se rejoint à peu près sur l'idée qu'on se fait des débats au sein de la communauté des supporters de l'OM, je crois.
Oui, tout à fait, tout à fait. L'essentiel, c'est les arguments, c'est les échanges, et ce qui vont nourrir un peu les esprits. Et puis même, nos positions peuvent aussi évoluer à travers les échanges. Évidemment que nos positions ne sont pas aussi catégoriques que Twitter peut le laisser penser, parce que Twitter aussi est fait de beaucoup d'interprétations. On évoquera un peu aussi peut-être après peut-être pourquoi on a nos positions à la fin et pourquoi on prend ce temps-là aussi sur Twitter. Mais oui, ça va être un échange très intéressant et j'ai hâte de le commencer.
Du coup, Yacine, en parlant... Je ne vais pas parler de polarisation des avis sur Twitter, mais sur le cas Pablo Longoria qui nous intéresse aujourd'hui, on en a en tout cas une très bonne explication. C'était que si le président de l'Olympique de Marseille avait un peu un statut d'intouchable que tout le monde louait à la fois dans les médias traditionnels, mais également dans l'espace médiatique et parmi la communauté des supporters de l'Olympique de Marseille il y a un an, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, en tout cas à l'heure où on se parle, hein, en ce mois de janvier 2024. Parce que la dernière année, elle a été très animée. Je pense que lorsqu'il convient de réaliser le bilan de Longoria, il est plutôt intéressant de revenir sur cette dernière année, comprendre le pourquoi du comment. Aujourd'hui, on en vient à ce débat, parce que je pense que si Yacine, si on avait eu ce débat il y a un an, ça n'aurait pas du tout été le même. Si on l'avait eu il y a 7 mois, peut-être aussi. C'est surtout parce qu'il y a eu énormément de mouvements à l'OM sur la dernière année, sur tous les plans, à la fois sur le plan sportif, où l'OM a changé d'entraîneur 2 fois, a changé encore une grande partie de son effectif, mais aussi d'un point de vue institutionnel, où l'OM a perdu énormément de membres, où il y a une énorme crise institutionnelle, où je ne sais pas si on avait déjà eu un tel précédent sur les 10 dernières années au mois de septembre, mais également un problème de communication, mais aussi de résultats sportifs, qui a amené une partie conséquente des supporters de l'Olympique de Marseille à changer d'avis sur Pablo Longoria, encore plus sur ces dernières semaines. Mais du coup, Yacine, j'aimerais qu'on revienne quand même, toi et moi, sur cette dernière année pour donner nos avis. Moi, j'ai noté en tout cas 4 événements majeurs, ou en tout cas 4 thématiques majeures sur cette dernière année. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Je pense qu'il y a déjà un tournant où ont été réalisées les premières erreurs, même si on avait déjà eu un peu, mais on pouvait les considérer comme mineures, voire résiduelles sur les 2 premières saisons. C'est le mois de janvier 2023, un mercato qui a été assez onéreux pour l'Olympique de Marseille, avec déjà le transfert historique de Victor Vitinha pour 32 millions d'euros, le recrutement d'Ounaï et de Malinowski, 3 joueurs qui n'ont pas vraiment rendu satisfaction, mais on va justement y venir là-dessus. Le deuxième événement que je note, c'est la transition entre Igor Tudor et le choix de Marcelino Garcia. qui aujourd'hui, je pense, est regretté par Pablo Longoria lui-même, mais aussi par l'ensemble des supporters de l'Olympique de Marseille. La crise institutionnelle de septembre, qu'on ne peut pas négliger, qui est quand même, je pense, le tournant de la présidence de Pablo Longoria. Et puis, plus généralement, un problème de communication qui s'est traduit ensuite par un problème, sur le terrain, puis sur le début de saison, et pas du tout, pas forcément satisfaisant et loin de ses attentes. Toi, Yacine, pour revenir sur cette dernière année, qu'est-ce que tu penses de la gestion de Longoria en général depuis janvier 2023?
Alors, depuis janvier 2023, je dirais que c'est une conséquence de quelques erreurs en amont. Voilà, même si j'ai un avis quand même globalement positif sur la présidence de Longoria, forcément, il a aussi fait des erreurs. Je pense que janvier 2023, pour moi, janvier 2023, c'est une conséquence. C'est une conséquence du dossier Dieng. Si tu veux, je pense qu'il faut savoir qu'au mercato d'hiver, les prix sont un peu plus hauts. Et surtout, encore plus le dernier jour du mercato, puisque les clubs ont moins de temps pour se retourner. Et Vitinha, tu le payes au pire des moments. Et tu le payes, tu es forcé de l'acheter au pire des moments parce que tu as mal géré le dossier Dieng. Sachant que, alors on pourra toujours dire, oui, Dieng, tu l'as vendu au bon moment puisque tu en tires 10 millions. Mais est-ce qu'il valait pas mieux garder Dieng et le vendre 4 millions plutôt que d'acheter Vitinha à 32 millions parce que tu as quand même surpayé Vitinha dans l'ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose que tu... Ça, c'est le premier élément. Et Dieng, tu étais forcé de le vendre au vu de la gestion puisque Mofi n'a pas signé. Et c'est là où le premier coup de poignard est arrivé pour Pablo Longoria, si tu veux, qu'on commence par évoquer ce mercato d'hiver.
C'est vrai que Yacine, par rapport à la gestion du neuf, parce que du coup, j'ai dit le nom de Victor Vitinha, sur ce mercato de janvier, on était un peu dans l'euphorie parce que on avait très rapidement compris que l'OM avait des moyens suite à la vente de Gerson, la vente annoncée de Bamba Dieng, la vente de Luis Suarez. Longoria, justement, au niveau des numéros 9, même s'il avait ramené des noms intéressants, comme par exemple Arek Milik sur son premier mercato de janvier, n'avait pas encore ramené un très bon 9 à l'OM, alors qu'inversement, en défense, il t'avait fait Mbemba, il t'avait fait Saliba, même des joueurs qu'on aime, que certains...
Milik, après, moi, c'est un autre débat. Moi, je pense que quand Milik arrive, c'est un très bon 9. Hein.
Ah oui, oui, mais si on parle... Oui, oui, c'est un très bon 9, mais un 9 qui... En fait, qui va performer et créer l'unanimité. Même si Milik avec des belles stats, tu te rappelles très bien que sur la saison de Sampaoli, c'était quand même un des gros points de débat et un point extrêmement
clivant. Après, extrêmement je pense que Milik, il a fait l'unanimité sur les premiers mois. Après, je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion de sa part avec de la... Ben, pas forcément une mauvaise gestion de la part de Sampaoli, mais on va dire que Sampaoli n'a pas réussi à l'incorporer quand il s'est blessé à la préparation. Il a installé un système avec Payet en faux numéro 9. Et puis Milik n'a pas réussi à retrouver sa place dedans. Mais sur les premiers mois, Milik, c'est quand même un super attaquant. Quoi. Sur les premiers mois, quand il arrive en 2020-2021, c'est vraiment un super numéro 9. Je pense qu'il a fait l'unanimité. Après, tu sais, le fameux sujet du grand attaquant à Marseille, c'est un sujet que tu peux reprendre en long et en large. J'ai rarement vu ces dernières années un attaquant faire l'unanimité à l'OM.
Mais Yacine, quand on voyait qu'il pouvait te prendre un mec comme par exemple Saliba en défense qui lui faisait vraiment l'unanimité et au-delà de l'Olympique de Marseille parce que tout le monde s'accordait à dire que c'était le meilleur défenseur de Ligue 1, je pense que les supporters vu qu'ils avaient peut-être avaient-ils vu Pablo Longoria trop beau, mais ils se disaient s'il nous fait un 9 sur ce mercato de janvier après s'être trompé sur Suarez, c'est que ça va forcément être un crack. Et au final tu te retrouves avec Vitinha. Alors t'as évoqué Vitinha comme une conséquence du dossier Dieng. Je suis d'accord avec toi, parce que si on recoupe les informations par rapport à ce dossier, l'Olympique de Marseille voulait recruter Terem Moffi, qui finalement est allé à l'OGC Nice. On se rappelle un peu de la saga où, je ne sais pas si tu t'en rappelles Yacine, mais Longoria était à l'aéroport de Lorient, ou si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de convaincre Moffi, qui avait refusé de monter dans l'avion.
Oui,
et pour moi, ça avait traduit plus généralement un manque de travail peut-être sur le dossier du numéro 9, à savoir que Nice travaillait sur Mofi depuis un certain temps, même si Nice a aussi signé le joueur parce qu'ils se sont permis quand même de rincer ses agents, ce qui a pas mal aidé, et qu'il y avait aussi un membre de la direction de Nice qui était à Lorient juste avant et qui connaissait bien Terem Mofi. Mais le fait de ne pas avoir de plan B, de sur ce premier mercato avoir visé un, plutôt un joueur, plutôt un milieu offensif. Je crois qu'on parlait de Trossard à un certain moment. Ensuite, de basculer sur un 9, ça montrait que par rapport à ce mercato de janvier-là, il n'y avait pas forcément un cadre prédéfini de on cible tel joueur, on travaille sur tel joueur.
Je vais prendre la défense de Longoria sur ça. Il ne faut pas oublier que Sanchez, c'est un 9,5. Enfin, c'est un peu un profil un peu à la Wiltord de version olympique lyonnais, hein, 2004-2005. C'est un attaquant qui est un attaquant qui est très agile, mais qui a un peu aussi un côté, on va dire, organisateur, qui a un peu un côté qui est là pour aspirer aussi les défenseurs. C'est pas quelqu'un qui va fixer dans la surface, les défenses adverses. Oui. Mais c'est un joueur qui va plus participer au jeu. Mm. Et Sanchez, il avait cette capacité et de jouer dans les deux éléments offensifs derrière lui, enfin derrière l'attaquant, comme en attaquant dans le système de Tudor. Mm. Donc, tu avais deux options. C'était où tu mettais Mofi dans l'axe et tu pouvais faire jouer Sanchez un cran en dessous aux côtés de Under, puisque Harit, à l'époque, se fait les croisés. C'est pour ça que l'OM devient très actif sur ce mercato. Ou tu avais l'option Trossard qui remplaçait, alors pas forcément au poste pour poste, mais pas avec le même rôle, Harit. Mm. Donc, pour moi, ça ne manquait pas de cohérence. C'était juste des alternatives. Par contre, c'est vrai que ça changeait complètement le rôle d'Alexis Sanchez sur la deuxième partie de saison. Tu vois. Après, tu as raison sur le dossier Mofi, le manque de continuité. Alors, il me semble que c'est plutôt Cyril Balta qui avait la tâche de. Si je me trompe. Oui, il avait la tâche de s'occuper de ce dossier. Ça a manqué de continuité. L'OM n'a pas été performant. Et c'est vrai quand même que sur le papier, surtout à l'époque, quand tu vois que tu te fais devancer par Nice, bon, tu te poses des questions. Tu te dis quand même, t'es l'OM, t'es un club plus attirant que Nice sur tous les aspects. Mm. Normalement, Nice n'a pas à te passer devant sur le dossier Mofi.
Exactement. Exactement, Yacine. Mais surtout, je trouve que le plus inquiétant à la fin, c'est de ne pas avoir de plan B, de te retrouver, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rappellent, mais on était vers le 29 janvier, alors l'OM signait Unai à la place de Ivan Illich. Et du coup, les gens étaient contents de voir une des révélations de la dernière Coupe du Monde, et même un joueur qui était très intéressant avec Angers, signé à l'OM. Il y avait Ruslan Malinovski qui venait d'arriver. Alors là, on se disait, on le voulait déjà cet été, il n'avait pas beaucoup joué avec l'Atalanta, mais moi, personnellement, j'étais globalement très satisfait de ce recrutement, même si, avec du recul, l'opération est un peu mal...
Malinovski, tu vois, c'est un sujet très intéressant parce que c'est un joueur qui a le talent, le niveau normand pour réussir à l'Olympique de Marseille. Sur le papier, c'est une super recrue, hein, Malinovski. Mm. Mais c'est important aussi d'étudier le profil psychologique de la personne. Il faut savoir que Malinovski, si ça n'a pas marché à l'OM, c'est pour des raisons aussi personnelles. Il y avait aussi le conflit en Ukraine à l'époque, faut pas l'oublier. Mm. Donc, il me semble qu'il avait des proches à lui... qui est en Ukraine, je crois, dans sa maman. Il me semble que sa femme était en restant en Italie. Ça fait beaucoup de choses qui font que tu te dis que le joueur ne va peut-être pas s'intégrer à l'OM, d'un point de vue personnel. Donc, je pense sur ça, on a peut-être pris un risque qu'on n'aurait pas dû prendre sur Malinovski par rapport à ça. Bon, après, c'est toujours plus facile de juger après, parce que sur le papier, c'est un super joueur, hein, Malinovski, et je pense qu'on était tous heureux de sa venue. Après, pour revenir sur Illich, tu as fait ce que tu avais à faire. Derrière, tu récupères Unai, pour moi, qui est une bonne recrue. Il ne faut pas oublier que l'OM ne l'a pas payé très cher, hein, Unai. Quand tu compares, par exemple, au transfert avec Vitinha,
oui, sur le transfert c'est 8 millions, plus 10%, je crois.
Pour moi, à l'époque, j'étais partisan et on a eu des échanges. Hein. Moi, j'étais plutôt contre le Suarez à l'époque. J'étais très, très, très dur avec Suarez. Hein. Pour preuve, hein, comme quoi je ne suis pas pro Longoria, tu vois. Et j'étais plutôt favorable à Bamba Dieng. Pour moi, le plan B, il aurait dû s'appeler Bamba Dieng. C'est-à-dire que tu aurais dû avoir plus de précautions concernant son cas. Et ça aurait dû être lui, entre guillemets, ta doublure, quitte à surpayer Vitinha, parce que on parle souvent de dire oui, il faut vendre au bon moment, mais il faut aussi savoir acheter au bon moment. Vaut mieux vendre Dieng à 4 millions et acheter Vitinha à 10 millions, où il vaut mieux acheter vendre Dieng à 10 millions et acheter Vitinha à 32 millions. C'est un équilibre. Il faut regarder aussi l'équilibre de cette manière-là. C'est bon. Après, je sors.
Mais au-delà de la somme, Yacine.
Au-delà de la somme. C'est, ouais. Là, je te parle au-delà. Je te parle purement stratégique. Je ne parle même pas du niveau de Vitinha. Je te parle juste du niveau stratégique. Je pense que c'est sur la gestion de Dieng où on était tellement pressé de le vendre qu'on a acheté au pire des moments. Voilà, c'est plus sur cet aspect-là.
Et pourtant, pourtant si on se rappelle, Yacine, sur ce mercato janvier, là, il y avait aussi un plan C qui s'appelait Sardar Azmoun, qui pouvait venir en prêt. Donc là, qui était aussi un recrutement de réseau via Ali Barat. D'ailleurs, la preuve, c'est que juste après, il va à la Roma et à Séville, où les DS ont à peu près le même réseau que Longoria. Moi, je trouvais que ce n'était pas forcément une mauvaise idée, Azmoun, même si les supporters avait montré sur les réseaux sociaux qu'ils étaient complètement opposés à cette venue. Moi, je trouvais que c'était un deal plutôt intéressant. Après, pour revenir sur Vitinha, Yacine, je suis d'accord que l'erreur vient aussi de la gestion de Bamba Dieng, même si je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que Dieng aurait dû être le backup de Sanchez. Moi, ce qui m'inquiète énormément sur Vitinha...
Excuse-moi, Rilas, sur Dieng, parce que c'est pour moi la première erreur qu'il a fait.
Vas-y.
Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai écart de niveau entre Dieng et Vitinha sur la saison 2022-2023? Est-ce que tu penses que tu as senti du moins un vrai écart de niveau entre les deux?
Mais moi, je te dis la vérité, au-delà de l'écart de niveau, parce que Dieng n'a pas beaucoup joué sur cette saison, même si on peut dire que Vitinha n'a pas beaucoup joué, je ne vois pas de différence entre les deux joueurs et je pense que Dieng est supérieur à Vitinha. Et pourtant, tu sais, Yacine, que je ne suis pas un grand fan de Vitinha, Dieng, il peut prendre la profondeur déjà. Il n'est pas conditionné à jouer avec deux devant, même s'il a des lacunes techniques.
Si tu veux, tu comprends déjà le raisonnement de te dire t'as quelque chose sous la main, tu sais ce que ça vaut. Fallait peut-être pas t'aventurer à prendre un risque sur Vitinha. Enfin, il fallait peut-être te dire je gère mieux en amont Dieng, quitte à ce que je le vende moins cher, mais au moins je ne surpaye pas, parce qu'il ne faut pas oublier que le mercato d'hiver, quand tu es forcé d'acheter au mercato d'hiver, tu vas sans doute surpayer. C'est au-delà du niveau de Vitinha. Vitinha, on l'évoquera juste après. Mais tu comprends déjà, au moins stratégiquement, il ne fallait pas être pressé d'écarter Dieng dans la partie. Tu vois ce que je veux dire?
Voilà, ouais. Donc voilà, Yacine, par rapport à la gestion du 9, hein, sur les erreurs de la dernière année. Je pense que Vitinha, on peut en parler rapidement. De toute façon,
c'est
un joueur qui a été sujet à énormément de débats et qui l'a encore plus ces derniers temps, parce qu'on parle potentiellement d'un départ après un an après être arrivé. Moi, ce qui me choque au niveau de l'arrivée de Vitinha, déjà, c'est le fait de faire de ce joueur-là le transfert le plus cher de l'histoire du club. Pour le côté symbolique, aujourd'hui, quand on analyse le bilan, on ne peut pas mettre le transfert de côté. Même si, oui, pour juger les prestations du joueur, on a clairement mis de côté l'idée de il faut mettre 32 millions à côté et regarder ses prestations. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan, l'OM a quand même mis 32 millions d'euros sur un 9 il y a un an. Et les prestations qui en ont suivi sont plus que décevantes. Et d'où la question de son recrutement. Vitinha, c'est un joueur qui était au Portugal, qui évoluait dans un 4-4-2, un système très particulier, où il avait affiché des belles performances en Europa League, où il avait mis un triplé contre l'Union Saint-Gilloise. Mais on était quand même sur un mec qui n'avait pas fait de centre de formation, qui avait eu un parcours jeune assez similaire à Dieng, parce qu'en vrai, quand tu regardes les trajectoires de Dieng et de Vitinha, même si Dieng était international sénégalais, qu'il avait gagné la CAN, c'était des mecs qui avaient qu'une saison dans les jambes en tant que titulaire et qui avaient un ratio but assez intéressant. Mais moi, en fait, ce qui me pose problème, c'est que quand tu es dans une logique de recrutement, le profil de Vitinha et ce qui a été mis en avant, c'était ses courses défensives. Un peu dans la continuité de Luis Suarez. On s'est dit, on va ramener un 9 parce que par rapport au jeu de Tudor, il amène une présence défensive, un abattage défensif où il fait énormément de courses de pression, où il récupère des ballons. Sauf que si on s'inscrit dans le contexte du championnat portugais, c'est quand même un championnat qui est très différent de la Ligue 1, où on a eu des précédents au niveau des numéros 9. Si on regarde sur les dernières années, les 9 qui sont partis pour énormément d'argent du championnat portugais, on a eu des Slimani, des Bastos, des Mitroglou. Et c'est souvent des joueurs qui ont fait des gros flops dans les autres championnats, alors que dans le championnat portugais, ça se passait très bien. Même si on a également un joueur comme Falcao, qui au contraire a tout pété... avec Monaco. On a également l'exemple de Gonçalo Ramos qui était quand même au-dessus de Vitinha avec le Benfica et qui au PSG a aussi des difficultés. Donc moi je trouve que c'était assez étonnant de se positionner sur le dernier jour du mercato sur le joueur qui va devenir le transfert le plus cher de ton histoire, qui n'est pas forcément très convaincant, même quand tu te repenses, même quand tu te repenches sur ses prestations avec Braga, moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça très limite. Et pour moi, c'est vraiment le premier point de bascule. Alors, au moment où on le fait, Vitinha, je pense que tu es d'accord avec moi, Yacine, il n'y a pas de débat. On est pris dans l'euphorie. On avait tous peur de ne pas faire de neuf. Beaucoup avaient peur d'Azmoun. Moi, personnellement, ce n'était pas mon cas. On voit un mec débarquer à l'aéroport. On est content. En plus, il semble un peu foufou. Les premiers matchs, on se dit, bon, il arrive. En plus, Tudor le met titulaire directement. Voilà, c'est compliqué. Et puis, le temps passe et on remarque qu'il y a un problème, Yacine. On remarque que
bah, moi, je ne sais pas ça. Je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai eu un peu d'appréhension sur ce transfert-là. Non, pas parce que c'est pas une question du tout de niveau, mais c'est de contexte. Tu l'as dit, à Marseille, les gens regardent de prix. Effectivement, que le prix, ça compte. Et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas, en fait. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas le regarder, c'est pas ça. Mais il faut aussi comprendre aussi que le marché est devenu le marché est devenu bien plus cher qu'à l'époque. Hein. Mmh. Je me rappelle aussi, bon, toute proportion gardée, mais parce que finalement, il a bien terminé son passage à l'OM. Mais les deux premières saisons d'André Pierre Gignac, c'était très, très, très compliqué. Mmh. Et on disait, c'était quand même le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Hein. Mmh. 18 millions. Peguilou Yundula, quand il a signé 12 millions, on disait, putain, c'est le plus gros transfert. Et c'est ça son bilan. Et c'est et Lundula, c'est que ça a été un flop. Donc au final, les prix, j'ai jamais voulu. Les prix, ils augmentent hein, de toute manière avec le temps. Hein. Gerson, il a pas coûté 5 millions. Hein. Donc c'est une juste logique des choses. Le problème, c'est que tu l'achètes dans un mauvais contexte. C'est-à-dire que c'est un gars qui n'a pas pu se préparer à venir à l'OM. Il vient le dernier jour du mercato, il est très jeune, il quitte son pays, sa ville pour débarquer dans un pays étranger. Il y a une période d'acclimatation qui est non négligeable et à Marseille, les besoins, ils te demandent de répondre. À Marseille, les besoins, c'est que tu répondes présent dès l'instant où tu arrives. Mmh. Donc, c'est vrai que dans le profil, c'était vraiment, il y avait ce risque-là à prendre en compte au moment de son arrivée. C'est là où c'est compliqué. C'est pour cela où Mofi aurait été plus adapté, parce que Mofi connaissait la Ligue 1, il connaissait l'OM. C'est pour ça que... Moi, j'insiste beaucoup sur le contexte dans le football. Il y a un joueur, ça peut être un bon joueur. Si le contexte n'est pas propice à sa réussite, il ne marchera pas. Voilà. À part les très, très, très grands joueurs qui, quel que soit le contexte, arrivent à retourner la situation. Mais c'est très compliqué. On parle d'un jeune joueur. C'est pour ça que ça m'a mis un peu mal à l'aise qu'on lui tombe un peu dessus, tu vois. Lui, il est un peu victime, un peu de tout ça.
Mais Yacine, au-delà de...
Braga, Arilès, n'oublie pas un truc. Braga n'a pas le temps de se retourner. Forcément qu'ils allaient faire banquer l'OM. Et ouais, forcément que le prix allait monter. C'est
la vente la plus chère de l'histoire de leur club.
Voilà. Pour moi, l'erreur stratégique est faite en amont. C'est-à-dire que tu peux ne... Et je ne peux pas en vouloir à Longoria de ne pas avoir forcément de plan C dans cette histoire, parce que c'est quand même très compliqué ce marché-là. Par contre, il faut avoir l'anticipation de se dire que peut-être, parce que Suarez partait, peut-être je devrais faire attention et garder Dieng, quoi. Et ne pas le... Parce que Dieng, ce qui se passe, c'est que une semaine avant quelques jours avant son départ, tu l'envoies à Lorient, tu lui fais faire la visite médicale. C'est là où tu fais l'erreur, quoi, parce que tu n'as pas l'accord avec Mofi, tu te permets de faire ça. Et dans le même temps, tu te dis que si avec Mofi ça flop, ben Dieng, je le perds à tout jamais, là, mentalement. Donc, le vrai problème est là. Après, sur Vitinha, le choix de Vitinha, forcément, c'est un choix en précipitation. C'est un choix de précipitation. Et il s'avère que ça ne paye pas et qu'il va peut-être partir lors de ce mercato d'hiver. Et que oui, il y avait des risques. Il y avait des risques par le fait, comme tu l'as dit, par rapport à son manque d'expérience, par rapport au fait qu'il venait d'arriver du Portugal, par rapport à l'aspect culturel. C'est un jeune joueur qui quitte son pays pour arriver dans un club où on te demande de répondre présent d'entrée de jeu, comme l'OM. C'est compliqué. Hein. Je pense qu'un joueur comme Vitinha... C'est un joueur qui a besoin de temps d'acclimatation et puis aussi sa gestion. Tu as évoqué le fameux match contre Nice où il démarre. Je pense stratégiquement, c'était une erreur de le faire démarrer aussitôt.
Mais je pense surtout, Yacine, par rapport à Vitinha, qu'on aille rapidement sur la suite, parce qu'on a vraiment pas mal de sujets évoqués. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je pense que ce qui dégoûte un peu aussi certains supporters marseillais, c'est de voir que tu as des mecs comme Victor Boniface, par exemple, qui est parti pour 20 millions au Bayer Leverkusen et qui éclate tout. Un mec comme Amoura, par exemple, qui est allé à l'Union Saint-Gilloise pour rien du tout et qui éclate tout. Et plein d'autres exemples de neufs que je ne peux pas sortir forcément parce que je ne les ai pas tous en tête malheureusement. Openda, par exemple, à Lens. Alors, on peut dire que c'est des clubs différents, il n'y a pas la même pression. Mais tu remarques quand même, Eliwahi, tu remarques quand même qu'en termes de qualité intrinsèque...
Eliwahi, je vais te stopper en direct.
Ouais, c'est compliqué pas... en ce moment à Lens. Mais regarde, Yacine, attends.
Arrivé à ça, je peux me permettre de te dire. À Lens, il manque de professionnalisme à l'entraînement. Il passe plus souvent.
Mais Yacine, c'est vrai. Oui, non, on peut les critiquer sur ça. Mais Yacine, si on est honnête, si on prend Vitinha dans un bon contexte, si on regarde ses qualités intrinsèques, c'est-à-dire techniques, parce qu'on peut parler du contexte, mais que je pense pas que lorsque tu n'arrives pas à faire une conduite de balle, lorsque tu n'arrives pas à prendre une bonne conduite de balle sur une transition, lorsque tu n'arrives pas à prendre de vitesse Younes Abdelhamid, quand tu te fais bouger par la défense de Brest au mois de mai, je pense pas qu'il y a que le contexte. Je pense que même intrinsèquement, c'est un joueur très limité et que un mec comme Wai, peut-être qu'à l'OM, il ferait pas mieux que Vitinha, mais tu verrais déjà que intrinsèquement, il sait prendre la profondeur. Donc déjà, dans le jeu, ça sera différent. Même il sait faire la différence individuelle sur des matchs de Champions League contre Arsenal où il y avait de la pression.
Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que Vitinha, on va dire, il est un peu moins sexy à voir jouer. C'est plus un joueur qui a une bonne conservation du ballon. C'est plus un joueur, je trouve, par contre, qui a une excellente protection de balle. Il est très, très dur dans les duels. Il est assez puissant. Je pense pas qu'il a rien, Vitinha. Je trouve que c'est un peu dur, tu vois. Je pense sincèrement qu'il a des qualités. Alors, il y a peut-être des qualités qui sautent moins aux yeux que les joueurs que tu m'as cités. Mais sincèrement, tu vois, si tu me dis que Vitinha, il a pas le potentiel pour claquer 15 buts en Ligue 1, je te dis.
Non, ça, je m'accorde là-dessus. Je pense qu'il a au moins ce potentiel-là.
Tu l'as quand même surpayé. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas que tu recrutes un tocard. C'est pas le joueur extraordinaire qu'on a vendu. Mais je pense sincèrement que c'est un joueur qui a du potentiel. Je pense que c'est pas un très bon joueur, mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de football. C'est pas honnêtement. Hein. Alors oui, c'est moins clinquant que Openda. C'est moins explosif. C'est peut-être aussi moins talentueux. Hein. Mais sincèrement, tu vois, Vitinha, il vient pour 7-8 millions.
On est d'accord.
C'est une bonne affaire, tu vois. Franchement, c'est une bonne affaire s'il vient pour ce truc-là. Tu te dis, voilà, tu as peut-être fait une bonne affaire. Mais le problème, c'est que tu l'as rappelé. Il y a le poids du transfert. Il y a le fait qu'on lui demande d'être présent immédiatement, que l'OM a des objectifs impératifs. Et puis c'est compliqué pour lui, c'est que on l'a jeté dans la gueule du loup. Tu vois, c'est tu Ariles, t'as vu des joueurs réussir dans des clubs et pas dans d'autres. Le contexte y joue.
Totalement.
Je pense que un joueur comme Vitinha, tu vois, je pense qu'un club comme Lille aurait été plus adapté pour Vitinha que l'OM. Tu vois.
Après, dans leur style de jeu actuel, je pense pas, mais oui, dans la dimension club. On est d'accord. En tout cas, sur Vitinha, Yacine, on a été un peu long, c'était très intéressant. Je pense qu'on va passer, on va essayer de faire rapide sur les autres sujets qui concernent la dernière année, parce qu'on a d'autres thèmes à aborder. Déjà, moi, je pense qu'une des erreurs qui a été soulevée énormément et qui est très logique, c'est la transition entre Tudor et Marcelino. Je trouve encore si la transition Sampaoli et Tudor était un peu logique, parce que le football de Sampaoli demander d'avoir des joueurs qui coûtaient cher, parce qu'il fallait recruter des joueurs avec une certaine qualité technique, avec une certaine intelligence tactique, que tu avais les départs de Saliba, qui était un homme fort de ta défense, et que Sampaoli, si tu leur retires Saliba et Camara, je pense que la saison qu'on fait en 2021-2022, ce n'était pas du tout la même. Et donc le choix Tudor était logique. Moi, personnellement, j'aimais énormément le discours qui était mis en avant, c'est qu'on veut un football physique. Un peu dans la caricature, on n'a pas l'argent du PSG, donc partons sur quelque chose qui ressemble à l'Atalanta et un peu le football du peuple, avec quelque chose de très collectif, quelque chose de physique, d'athlétique, de conquérant, parce qu'on voulait, on voulait être agressif avec et sans ballon et être très vertical, ce qui ressemblait en soi un peu à l'identité de l'Olympique de Marseille, avec le fameux droit au but. À un an après, partir sur Marcelino, alors que tu avais peut-être, on peut critiquer Tudor, hein, mais tu avais quand même une certaine base, une défense à trois, une certaine identité, un effectif peut-être à améliorer. Alors avec Tudor, pas Tudor, moi je pense qu'il fallait garder Tudor. Et je pense justement que Tudor n'a pas vraiment démissionné. Et que c'était... D'ailleurs, tu confirmeras ça, Yacine, quand je te demanderai ton avis. Mais partir sur Marcelino, là franchement, quand on a un discours au mois de juin, au départ de Tudor, on a du temps pour prendre notre coach, on va faire un bon choix. On veut du football rock'n'roll pimenté, c'est-à-dire du football offensif. Alors on n'a pas aimé le marquage individuel de Tudor, mais on veut repartir sur une base identique et te ramener Marcelino qui joue en 4-4-2, qui est un très bon coach, hein. Moi je trouve que c'est un très bon coach, mais juste fallait pas qu'il vienne à l'OM à ce moment-là et partir dans une rupture complète avec ce que tu avais fait sur les deux dernières saisons. Franchement, je pense que là c'est, et quand tu rajoutes ça à Vitinha, t'es quand même sur une deuxième très très grosse erreur. Surtout le fait de négliger la transition, chose que Longoria reconnaît 3 mois après, mais j'ai envie de dire, même au-delà du football, dans n'importe quel domaine, transitionner vers quelque chose qui est aux antipodes de ce que tu prenais il y a 2 mois, ça va pas marcher directement, et je sais même pas si ça va marcher à long terme. Je trouve que ce choix-là est vraiment un choix qui en termes de direction sportive, on va en venir juste après, est assez désastreux. C'est-à-dire que si Longoria est un très bon gestionnaire, qu'il a fait des très bons deals, qu'il a su redorer l'OM sportivement, mais même dans d'autres domaines, hein, on peut parler des finances, même si aujourd'hui il y a un peu des débats là-dessus, au niveau du sponsoring, au niveau du cadrage du projet sportif, quand tu passes de Tudor à Marcelino et qu'un an avant tu étais passé de Sampaoli à Tudor, tu peux quand même te poser des questions. Et j'ai envie de dire que pour moi, c'est... On met Vitinha de côté parce qu'on en parle énormément. Pour moi, c'est la plus grosse erreur de son mandat. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Yacine.
Ça fait partie aussi des erreurs. Hein. Même Longoria, il le reconnaît en privé, hein, qu'il s'est trompé sur ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ de Sampaoli, Tudor n'était pas le choix numéro 1. Hein. Ça, c'est quand même, faut le préciser. Il y avait d'abord Gattuso, qui était sous contrat, il me semble, avec Valence à l'époque. C'était un peu compliqué à déloger. Tu avais Galtier. Et Galtier avait déjà donné sa parole au Paris Saint-Germain. Et tu avais Tudor. Donc après, Tudor est venu assez rapidement et ça s'avère que c'était un excellent choix. Après, il faut remettre dans le contexte les choses. Ce qui se passe, c'est qu'avec Tudor, je trouve qu'il y a une base qui est saine, intéressante. Surtout qu'on y évoquera après, je pense, Longoria l'a mis dans de bonnes conditions. Il a fait, entre guillemets, respecter une certaine forme d'institution. Bon, après, même si je sais que ce mot est un peu galvaudé dans le football aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin, les joueurs ont lâché Tudor. Voilà, Tudor, il avait peut-être un peu un défaut, c'est qu'il était un peu virulent, voire un peu... Alors, je n'aime pas dire dur, non, ce n'est pas le bon terme, mais un peu, il parlait un peu mal aux joueurs, hein, faut dire la vérité, faut appeler un chat un chat. Il parlait mal aux joueurs, donc forcément, il a perdu un peu son groupe en fin de saison, et ça s'est ressenti. Et c'est vrai qu'il a été poussé vers la sortie. Après, encore faut-il qu'après son départ, il fallait avoir un choix de coach cohérent. Longoria, le football de rêve de Longoria, le coach de rêve de Longoria, il faut savoir que c'est Sarri. C'est Sarri. Et c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à ce que veut mettre en place Marcelino. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que Marcelino a été un choix par défaut. Je ne pense pas qu'il y ait eu l'unanimité au sein de la direction olympienne sur le choix des coachs. On sait que Ribalta voulait d'abord Fabio Grosso, hein, faut pas l'oublier. Et heureusement qu'il n'est pas venu vu son bilan à Lyon. Puis aussi, il voulait Fonseca. Je pense que Longoria aussi voulait Fonseca, mais après, c'était une opération très compliquée. Moi, je pense que c'est ma conviction. Je pense que Marcelino, ça a été un choix par défaut. Et ça s'en est ressenti.
Ouais, choix par défaut, c'est vrai. Moi, après, moi, ce qui me fait dire que c'est... Moi, en fait, je pense que c'est un choix qui est la conséquence d'un manque d'idées. Donc, par défaut, c'est ça. Pour moi, c'est ça, par défaut. C'est que tu n'avais pas forcément d'idées.
Est-ce que c'est dit Longoria ?
Sur les idées, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a le coach là, qui a signé à Tottenham, le coach
Postecoglou.
Postecoglou.
Mais j'ai pas l'impression que l'OM était vraiment sur Postecoglou, parce que si l'OM veut faire Postecoglou, je pense qu'ils savent qu'il va y avoir des intérêts de gros clubs, et que si tu as envie de le faire, bah faut un accord dès le début du mois de juin. Je pense qu'il faut pas mettre autant de temps. Enfin, faut qu'on s'en rappelle quand même. Tudor part et Marcelino est nommé un mois après. C'est...
Non, alors c'est... attends. Tudor, enfin bon, enfin il y a quand même eu un peu plus qu'un mois, parce que Tudor c'était un peu réglé avant la fin de la saison son départ. Hein.
Tu penses à partir de quelle date
Franchement, je pense qu'à 2 semaines de la fin du championnat, 2-3 semaines, enfin voilà, c'était réglé. Hein. Okay. C'était réglé. C'est moi, honnêtement, je pense qu'on avait même senti une cassure en fin de championnat. Enfin, sur les 3 derniers matchs, tu le vois que les joueurs ont lâché quand ils perdent à Ajaccio contre Brest. Ouais, tu le vois. Hein. Même Marcelino arrive tardivement au niveau de la préparation.
C'est ce qui conditionne la suite.
C'est ce qui conditionne la suite, c'est qu'au-delà même du choix Marcelino, ce qui pose le problème, c'est quand il a été nommé. Tu sens que tu vas vivre un été, en fait ta saison va se jouer sur ton été, sur l'été, sur ton tour préliminaire de Ligue des Champions. Ta saison va se jouer là-dessus. Il faut que tu répondes, il faut que tu conditionnes ton équipe à préparer cette saison de la meilleure des manières. Et pour ça, il fallait choisir, je pense, le coach, on va dire, le plus rapidement possible, je pense.
Donc, tu avais du temps. Et Longoria mettait en avant le fait d'avoir du temps.
Voilà. Après, il a été, entre guillemets, réactif au niveau du mercato pour répondre aux besoins de Marcelino. Mais je pense que le choix Marcelino, pour moi, c'était une erreur de casting. C'était pas adapté à l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Tu vois, donc...
Ouais.
Je pense que... Après, tu sais, c'est quand même très compliqué avec le choix des coachs parce que tu peux pas avoir un coach qui a exactement la même vision que Tudor, c'est même impossible. Mais tu peux avoir
quelqu'un qui est similaire quand même, tu vois.
S'en approche du moins un peu plus. Tu vois, qui s'en approche du moins un peu plus.
Un mec comme Aize, bon, je sais pas si l'OM pouvait aller.
Alors Aize, moi, je suis pas hyper fan parce que tu vois. C'est un mec, enfin à Lens actuellement, les gens commencent à dire qu'il s'écarte un peu de son groupe, qu'il prend un peu la grosse tête. Tu sais, Garcia à l'époque, il avait le vent en poupe quand il était champion avec Lille. Tout le monde disait que c'était le futur Guardiola. Hein. Mmh. Tu sais pas ce que ça va donner après dans le contexte marseillais. Moi, il y a un seul coach qui pourrait offrir des garanties et répondre présent à l'instant T au niveau des résultats sans faire un jeu flamboyant. Mais le contexte n'était pas adapté à sa venue parce qu'il y avait encore l'histoire du procès. C'était Galtier. Pour moi, c'était Galtier, mais le contexte n'était pas adapté
à ça. Et le fait qu'il était à Paris juste avant aussi, surtout.
Et le fait qu'il était à Paris juste avant, voilà, donc il y avait tout un contexte, c'était le pire contexte possible pour qu'il vienne. Voilà. Pour moi, je pense que intrinsèquement, en tant que technicien, on n'aurait pas eu un jeu spectaculaire, mais on aurait eu un coach qui aurait pu s'adapter rapidement aux enjeux et au contexte de l'époque, mais le contexte ne permettait pas son arrivée. Ça, c'était une certitude. Donc, après, c'est toujours très compliqué dans le choix des coachs. Moi, je pense qu'il y a un profil bon à un moment précis et qu'il fallait, dans ce genre de circonstances, il te fallait un coach qui connaisse parfaitement l'Olympique de Marseille, qui soit un très, très bon technicien, qui puisse s'adapter. Ou alors un coach aussi qui connaisse très bien, qui connaisse plutôt bien la Ligue 1, mais qui ait, on va dire, des principes de jeu, on va dire, semblable.
Pour moi, Yacine, sincèrement, si on devait dire le profil idéal, c'était Fonseca. Je sais que l'OM a négocié pour lui et a également, lors des négociations, tâté le terrain pour l'année d'après, parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. D'ailleurs, l'OM est toujours intéressé par Fonseca. On verra si dans les prochaines semaines, on a des nouvelles rumeurs qui sortent, comme quoi l'OM veut vraiment passer à l'attaque pour lui. Pour moi, c'était lui le coach idéal. C'était vraiment le coach idéal. Il n'a pas forcément une continuité très, très marquée avec Tudor, mais ça faisait... Je pense que ça pouvait faire la synthèse des 2 dernières saisons. Maintenant, juste pour revenir sur Marcelino, je trouve quand même que le choix est vraiment mauvais, même si moi je le dis franchement, c'est un bon coach. Je pense vraiment, sincèrement que c'est un bon coach. Il y avait des arguments pour, mais il y avait énormément d'arguments contre, notamment au niveau de la continuité. Et je trouve que ça conditionne toute la suite. Et c'est aujourd'hui ce qu'il y a, je pense, avec tout ce qu'il y a eu en conséquence de ce choix, légitimer la suite, c'est-à-dire... Bah, ça a donné du crédit à ceux qui voulaient le renverser en interne et ça a donné la crise institutionnelle. Ça donne, ça donne aujourd'hui ce podcast où, bah, donc, dans cette première partie, on est un peu revenu sur les éléments critiques de cette dernière année. Et surtout, ça conditionne aussi avec le mercato. Marcelino qui a fait venir les joueurs qu'il connaissait et qui a ciblé des profils un peu onéreux avec des gros salaires, ça a un peu remis en question l'équilibre que Longoria avait mis. Justement, Yacine, je te propose de revenir un peu sur des thématiques un peu plus générales qui englobent le projet de Longoria en général. C'est-à-dire, on peut évoquer le mercato depuis l'arrivée de Longoria, c'est-à-dire la politique de recrutement, les recrues, les ventes, la direction sportive, le choix des coachs en général, même si on l'a un peu abordé là, donc je ne sais pas si on va revenir là-dessus, la continuité, la pyramide salariale, qui était un des premiers trucs qu'il avait mis avec une forme de salary cap, le recrutement au réseau, et puis tout ce qui est institutionnel, où je pense, Yacine, là, tu as pas mal de choses à nous apporter. Surtout que je crois que tu as un avis très précis sur un certain domaine. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer, Yacine, c'est quelque chose qui te tient à cœur.
Après, si tu veux, on peut commencer pour parler du mercato. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui laisse. Il y a un héritage très intéressant que laisse Longoria sur la vision future de ce que doit être le mercato de l'Olympique de Marseille. Je vais prendre un exemple très simple. Est-ce qu'on peut comparer l'OM et Lyon actuellement?
Non, mais je pense que dans quelques semaines, on pourra les comparer, je pense sincèrement.
Sur les dernières années, est-ce que tu les compares?
Non, sur les dernières années, non.
Quand Longoria arrive, est-ce qu'on peut dire que c'est deux clubs qui sont à peu près à la même position?
Ah oui, même Lyon est peut-être même devant. Lyon est peut-être même devant.
Ok. Je vais te dire quelque chose de très simple. Dans la fin des années 2000, Lyon et l'OM étaient aussi des clubs globalement dans la même position. Tu sais, on va prendre l'OM de Guérez-Deschamps, le Lyon de Puel, on peut comparer. C'est des clubs qui étaient globalement, on va dire, comparables, du moins. À l'époque, ces clubs-là, ils achetaient les meilleurs joueurs de Ligue 1. Ils avaient l'argent pour l'acheter. Donc, l'OM achetait les Mbia, les Diawara, Lyon achetait Kallström, Bafétimbi Gomis, voilà. Enfin, on ne va pas lister tous les noms. Mais ces clubs-là avaient ce pouvoir-là de s'acheter les meilleurs joueurs de Ligue 1. Et il y avait une petite course à l'achat des meilleurs joueurs de Ligue 1 pour construire la meilleure équipe possible. Et en achetant les meilleurs joueurs de Ligue 1, tu avais des certitudes sur la scène nationale et européenne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il est devenu trop cher en Ligue 1. Là où un Gomis, tu veux l'acheter 15 millions d'euros à l'époque, un Jonathan David, aujourd'hui, ça, pourtant, hein, et on voit ces premiers mois, cette saison, qui sont pas terribles, hein, mais l'année dernière, tu ne pouvais pas te le choper à moins de 45 millions d'euros. C'est ça la vraie vérité. Et l'Iwaï, il a coûté 30 millions à Lens, et pourtant, il a moins prouvé que Gomis à l'époque. Le marché est devenu trop cher. Openda, tu ne peux pas l'acheter. Ça coûte minimum 40 millions. Il est là le vrai problème. C'est que là où Lyon n'a pas su développer ses réseaux à l'étranger, Longoria l'a fait. Et c'est pour ça que l'OM a pris 2 ou 3 ans d'avance sur Lyon ces dernières années. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant. C'est cette vision d'aller exploiter des marchés extérieurs. J'aime pas dire mineur parce que l'Italie, c'est pas forcément mineur, mais c'est moins cher. Mais ça peut être aussi mineur, comme en Belgique, comme en Norvège, là où l'OM regarde actuellement. Je trouve que cette vision-là, c'est une vision très intéressante. C'est une vision très intéressante pour l'avenir. Et c'est là où l'OM doit se développer à l'avenir. Tu vois. Ça, c'est la première chose, on va dire, en termes de vision. Après, on rentrera plus en profondeur, si tu veux, sur des recrues. Mais du moins, moi, j'ai un regard positif sur la vision de Longoria. Et je pense qu'aujourd'hui, vu le marché français, tu es obligé. Tu sais, moi, je me rappelle de l'été 2021, l'OM s'intéresse à Adrian Gerbic, qui est clairement en Ligue 2. Clairement, viens, il te dit, il vaut 10 millions. On parle d'un attaquant de Ligue 2. Il vaut 10 millions d'euros. Est-ce que tu te rends compte que Gerbic vaut 10 millions d'euros? Alors, ce n'est pas le même poste, hein, mais Under, quand même, qui avait quand même certaines références et qui était à la Roma, tu l'as récupéré pour 7 millions.
Justement, en parlant d'Under et du fait que tu l'as récupéré à la Roma pour 7 millions d'euros, Under, il fait partie de ces joueurs-là qui ont été recrutés grâce au réseau de Longoria, notamment via ses relations avec Pinto, qui vient de partir de la direction de l'AS Roma. joueur qui arrivait grâce à Ali Barat dans un double deal avec Paulo Lopez, et qui avait bien illustré à l'époque les bienfaits justement que tu viens de souligner du recrutement de réseau, c'est-à-dire les deux joueurs qu'on vient d'énoncer, la capacité à aller chercher deux joueurs à Arsenal où Longoria a des bonnes relations avec Edu, c'est-à-dire Guendouzi, mais aussi William Saliba, parce que ça te facilite aussi son prêt, par la suite Kolasinac, même si sur les premiers mois c'était compliqué, puis ensuite Nuno Tavares. Quand on regarde ça, on voit clairement les bienfaits d'un recrutement de réseau. Et c'est justement sur ce point-là quelque chose qui avait été constitué en opposition avec notre ami Zubizarreta, qui lui était espagnol, qui venait du Barça, et t'as jamais fait de joueur du Barça. Là où Longoria, je crois, Marcato
et Fernandes. En plus, Zubizarreta et Longoria, on les a souvent opposés, mais en fait, c'était des profils complémentaires. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est le petit aparté. Ils avaient des manières de procéder différentes, complètement différentes. Mais après, sur le recrutement de réseau, je peux comprendre de l'extérieur que ça dérange. Maintenant, dans le football, c'est très compliqué de fonctionner sans réseau. Si tu te fermes sur certaines portes, tu ne vas pas obtenir d'autres portes. C'est ça la vraie vérité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la loi des agents, des intermédiaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, moi, s'il y a du réseau, mais que ça travaille aussi à côté, bon, et que tu limites les marges d'erreur, ben j'ai envie de dire
bravo. C'est ce qu'il y avait au début. C'est ce qu'il y avait au début. C'est ce qu'on disait.
Tu sais, même, je me rappelle d'une émission que je fais au FC Marseille à l'époque, et à juste titre, je m'étais très inquiété de l'arrivée d'Under. Hein. Parce qu'il allait enchaîner blessures et faut dire, moi je vais te dire un truc, moi je l'ai taillé Longoria et je me suis fait tailler après cette émission et au final je me suis trompé, tu vois, j'assume mon erreur sur Under parce qu'au final Under il a été, moi je trouve, performant à l'OM ces deux dernières saisons, mais il faut souligner quand tu travailles, quand tu prends en compte. Parce que travailler, c'est pas prendre en compte que le talent du joueur ou le niveau, hein, ou le profil. Hein. C'est aussi prendre en compte l'aspect psychologique, sa motivation, sa détermination, s'il a confiance en lui, comment il est prêt à. Et franchement, le Under, Guendouzi, Saliba, sur la première saison, tu regardes, c'est des très très belles surprises. Tu regardes.
Ah, exactement. Mais par rapport à ça, en fait, par rapport au recrutement de réseau sur la première saison, c'est absolument pas un problème parce que tu les recrutes vraiment bien. Par rapport au réseau, si on veut résumer un peu par rapport à Pablo Longoria, on a le recrutement de réseau via les directeurs sportifs, c'est-à-dire les bonnes relations qu'il a avec Edu, les bonnes relations qu'il peut avoir avec les dirigeants de l'AS Roma. L'Atlético, ça par contre, je sais pas du tout si c'est des bonnes relations avec les dirigeants de l'Atlético, même si Alemany est de plus en plus avec qui il a travaillé à Valence, a rejoint l'Atlético et est de plus en plus influent là-bas. Et puis on a les relations avec les agents, notamment par exemple Djibril Niang, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça le nom, son nom, agent de Saliba, qui t'a fait aussi venir Isaac Touré, et qui était aussi sur le point de te faire venir à Gouma en janvier. Donc de ce point de vue-là, on se dit que c'est intéressant le recrutement de réseau, sauf que le problème, c'est comme tu l'as dit, quand ça travaille à côté, que ça ramène des joueurs, et qu'en plus les mecs que tu fais venir par ton réseau sont très bons, enfin sont performants, c'est top, c'est parfait. Mais quand ces joueurs-là sont de moins en moins bons, que les noms qui reviennent, tu les as déjà entendus sur les autres mercato et tu sais que ce n'est pas forcément des bons joueurs. Enfin, ce ne sont plus forcément des bons joueurs comme par exemple Joaquín Correa. Là, tu dis que ça pose un peu plus de problèmes. Et tu commences à avoir un peu plus de doutes sur la pertinence du fait de ne plus avoir une cellule de recrutement qui travaille, qui cible des joueurs, avoir un carnet avec tel joueur, tel joueur, tel joueur comme cible. Mais regardez ce que l'Inter met sur le marché, regardez ce que tel club met sur le marché. Je pense que ça s'est accentué sur le dernier mercato où tu fais deux joueurs. Ouais, vas-y Yacine.
C'est intéressant. En fait, il faut partir d'un principe, c'est que dans un mercato, tu as toujours des échecs. Parce que tu ne maîtrises pas tout. Ben, le meilleur exemple que je trouve qui est un exemple très intéressant, c'est Lirola. Lirola, quand tu le fais en prêt au début. C'est intéressant. Il y a 2 mois où sous Sampaoli, je trouve qu'ils sont vraiment très bons. 2 voire 3 mois. Tu te dis, que c'est un profil complètement adapté à Sampaoli, donc je vais peut-être le payer un peu plus cher, mais il faut le faire venir, surtout que la Fiorentina t'a fait galérer tout l'été, que c'était ton seul arrière-droit officiel de métier à l'époque. Donc tu le recrutes pour 13 millions, si je ne dis pas de bêtises, et il s'avère que c'est un de tes plus gros flops. Donc c'est pas... Je pense qu'à l'époque, aucun supporter aurait prédit que Lirola serait un flop de ce niveau-là.
Ah oui, oui.
Le truc, c'est qu'il y a une part de contexte. Il y a le contexte, il y a beaucoup de données qui rentrent en ligne de compte. Dans un mercato, tu te trompes. Même, par exemple, on va dire le dernier, je pense, le meilleur président qu'on a connu depuis... enfin, le meilleur président qu'on a connu qui est au-dessus, on va dire, un peu peut-être encore de Longoria ces derniers temps, c'est Pape Diouf. Même Pape Diouf s'est trompé dans des mercatos. Mercato d'été 2007, quand il fait venir le duo Ziani Zenden, bah au début, ça ne prend pas. Non pas que Ziani Zenden n'était des mauvais joueurs, non, ils prouveront d'ailleurs par la suite que ce seront plutôt des bons joueurs, mais que ça ne prend pas au début. Et derrière, tu as de la chance. Par contre, derrière, tu as une chance. C'est que quand tu as certains joueurs qui flopent un peu, parce que Bale, il est rapidement vendu dès qu'on voit qu'il est un peu en méforme et qu'il y a une grosse offre de Newcastle, tu as la chance que des jokers ou des émergent. À l'époque, tu avais des Bonnard, des Valbuena, ce genre de joueurs émergent. Et c'est là où, quand tu fais venir des titulaires et que ça ne fonctionne pas, il faut que tu aies des bons paris, on va dire des bons paris qui doivent s'imposer. Par exemple, tu vois, le contexte ne l'a pas prêté parce qu'il y avait des soucis personnels, mais c'était dans la première partie de saison qu'un joueur comme Unai devait s'imposer, tu vois. C'était aussi dans la première partie de saison que Vitinha devait s'imposer. C'est dans ce genre de moment que entre guillemets, les remplaçants doivent prendre le terrain, quoi. Et doivent... parce que les erreurs, il y en a, il y en aura encore. Des réussites aussi. Et ça, c'est dans tous les clubs. C'est dans tous les clubs, ça fait partie du jeu. Après, l'idée, c'est d'être cohérent et d'en faire le moins possible. Sur Correa, par exemple, c'est un cas intéressant parce que tu me parles de Correa. Correa, c'est une conséquence que de tes moyens financiers et du fait que tu loupes la Ligue des Champions. Tu prends ce que tu peux faire un peu, hein, entre guillemets. Et surtout qu'il te manque un vrai profil. En fait, là, pour moi, Correa, c'est presque une... Même le choix du profil, pour être très honnête, moi, à l'époque...
Marcelino, c'est...
Ben, Marcelino ne voulait pas, voulait à tout prix un organisateur qui puisse jouer sur le côté gauche. Moi, j'étais partisan à l'époque, d'ailleurs, je disais ardemment tout l'été, il nous fallait un milieu offensif gauche qui puisse étirer le bloc équipe sur la largeur. Parce que il fallait que tu devenais un peu trop prévisible. À mon sens, tu allais devenir trop prévisible si tu avais un organisateur sur le côté gauche toute une saison et, on va dire, un pur ailier sur le côté droit qui devait être Ismaïla Sarr. Moi, je n'étais pas partisan de ça. Bon, il s'avère que Marcelino voulait ce profil. Il l'a eu. Mais oui, c'est je pense que sur la dernière partie de saison, sur le dernier mercato d'été, parce que qui est quand même plus raté que réussi, tu as subi, on va dire, la non-qualification en Ligue des Champions et le changement de coach. C'était, on va dire, le coup de trop.
Mais encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui est conditionné par le début de gestion estivale. Et si tu te qualifies pour une petite ligue face au Pana, c'est aussi parce que Marcelino, tu le nommes trop tard, tu mets du temps à choisir ton coach. Le recrutement est aussi tardif parce que tu attends aussi des opportunités, mais tu as la qualif. En fait, c'est un enchaînement de mauvais choix qui crée cette condition. Mais oui, c'est vrai que sur ce dernier recrutement, il l'est en tout cas. On a pas mal parlé des arrivées. Juste pour revenir rapidement sur le mercato de réseau, tu avais dit que tu n'étais pas fan de Suarez. Bah, par exemple, ça aussi, c'est un truc qui est problématique. C'est par exemple d'avoir fait un joueur comme Suarez juste parce que c'est Botas qui te le propose. Et bon, après, tu le fais ressortir, mais tu perds un peu de temps lorsque tu le fais. Moi, un truc que je pourrais reprocher à Longoria, justement, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Après, tu me dis, toi, Yacine, si tu penses que c'est plutôt Benatia. C'était souvent, on recrutait souvent en Serie A, c'était jamais dans les championnats mineurs. C'était jamais on va tenter des coups,
mais tu recrutais 3
millions
bien.
D'euros. Mais, oui, tu recrutais bien, mais comme je t'ai dit, sur la fin, c'est redondant, par exemple.
Après, moi j'aime bien ton argument. ton argument, il est intéressant parce que ça dénote d'une certaine exigence. Une certaine exigence que tu plafonnes parce que je pense que Longora t'a montré certaines choses intéressantes dans son passage. Je pense que tu n'aurais pas eu ces exigences avec Günther Jacob, tu vois.
Oui.
C'est donc ça, je trouve que c'est intéressant. Moi, ce que je veux te dire, c'est que encore une fois, c'est à quel est ton degré d'exigence, à quelle échelle tu situes l'OM. Moi, je trouve, par rapport à ce qu'on avait à l'époque, où on commençait un peu à s'enfermer, à avoir toujours un peu les mêmes joueurs, où on avait peu d'idées, où on était un peu impuissant parce que le marché français devenait trop cher, les clubs français, on va dire, braquaient l'OM, et tu n'avais pas forcément les réseaux pour aller chercher à l'étranger, je trouve qu'aller faire les coups qu'il a fait à l'époque, c'était très intéressant.
C'était innovateur.
Et c'est pas... C'est pas anodin qu'il a eu derrière ces résultats-là, Longoria, président, hein, qu'il a eu d'aussi bons résultats. C'est que, et moi, c'est même, tu vois, parce qu'on parle de Under, tout ça, même la deuxième partie, enfin, même 6 mois après, moi, quand il fait venir Kolasinac, au début, ça prend pas. Après, ça prendra sous Tudor. Mais c'est des joueurs aussi qui ont vécu une certaine expérience, qui
se connaissent aussi, il faut le dire. C'est un moment
qui se connaissent. Qui se connaissent et qui
quand ce il n'est pas le cas de cette saison, par exemple, où si t'as Kondobi Alondi, ah si, bah t'as Veretout, oui. Si en fait c'était un peu plus le cas cette saison, mais c'était un peu moins marqué que les dernières saisons où t'as Gendouzi qui vient d'Arsenal, Nuno Tavares qui vient d'Arsenal, tu vois, c'était.
Tu prends des joueurs qui ont une certaine expérience du haut niveau européen, voilà, pas forcément le niveau, mais qui connaissent le haut niveau, qui peuvent plus facilement encadrer. Des jeunes joueurs, et ça c'est quand même quelque chose qui c'est quand même quelque chose qui est intéressant. T'as eu des paris qui ont fonctionné. T'as Amin Harit encore, ben c'est Longoria quand même qui le fait venir aussi, tu vois. Donc t'as été aussi très très rapide, très efficace sur Samuel Gigot. Il vient pour 500 000 euros.
Ouais, ça, mais tu vois, Gigot par exemple. Moi, ce n'est pas un joueur qui m'a énormément convaincu à ses débuts, mais quand tu regardes que oui, il vient à 500 000 euros, c'est un joli coup qu'on ne met pas assez en avant, c'est vrai. Même si on est tous plus ou moins d'accord pour dire que c'est un bon défenseur en Ligue 1 qui fait l'affaire à l'OM, mais qu'il est quand même un peu limité. Mais enfin, c'est normal, vu qu'on le prend pour 500 000 euros, mais c'est quand même un coup à noter. Yacine, avant qu'on.
Après, pour la cellule de recrutement, parce que
il faut en parler aussi.
Il faut en parler de la cellule de recrutement. C'est vrai qu'il a un peu délaissé la cellule de recrutement qui est partie du côté de Lyon, mais la cellule de recrutement, elle a eu quelques dossiers à s'occuper de...
Caboret, notamment.
Ah, Issa Caboret, veut dire, voilà. Moi, tu me dis, tu préfères Issa Caboret ou Murillo? Bon. C'est lequel le recrutement qui a été le plus efficace actuellement, si on juge actuellement, Murillo ou Caboret?
Bah, c'est Murillo. Après, si tu me parles en termes de joueur, moi, je préfère Caboret.
C'est ton avis. Maintenant, moi, personnellement, je préfère Murillo. Mais sur l'efficacité...
Ah, pas l'OM, hein, Yacine. Moi, je te dis, si je suis dans un autre club avec un autre projet, je serais allé sur Caboret, pas sur Murillo.
Voilà, ça logique. Je ne pense pas que la cellule de recrutement a été... Je pense qu'on a peut-être un peu trop idéalisé la cellule de recrutement qu'on avait à l'OM aussi. Enfin, voilà. Après, c'est vrai qu'on ne lui a pas laissé beaucoup de chance. Ça, c'est la vérité. Après, on verra ce que ça va donner.
Mais quand tu vois Yacine que là, du côté de l'Olympique Lyonnais, bon, on verra l'efficacité. Après, c'est un contexte différent. Il y a aussi le contexte dont on a parlé tout à l'heure, qui te lâche 15 millions sur un jeune en Belgique, qui te lâche Orban, non pas, oui, Gift Emmanuel Orban, buteur de
Kane. Les idées sont intéressantes, mais est-ce que ça va prendre, tu vois, mais regarde.
Yacine, si tu mariais ces idées intéressantes là avec le réseau à l'OM, bah peut-être que au lieu d'avoir Vitinha, t'as Boniface.
Non, mais attends, Ariles, n'oublie pas un truc. Idée intéressante ne veut pas dire forcément que ça va marcher.
Ah oui, non, mais on est d'accord. Mais
tu Vitinha, vois, quand tu regardes. Je veux dire, Lyon, on peut dire que c'est des idées intéressantes, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on a vanté beaucoup de choses. Tu sais, Ariles, hein, quand Grosso il arrive. Moi, j'ai entendu beaucoup aussi de gens qui disent « Oh putain, ça, c'est intéressant. Nous, on voulait le faire venir. Voilà, Lyon va le prendre. Lyon va remonter. Lyon a pris Nouama. Lyon a fait ci, Lyon a fait ça. »
Par exemple, Nouama, mais Yacine, il y a le contexte. Par exemple, Nouama, tu le mets à l'OM, ce n'est pas Nouama à Lyon. Tu es d'accord sur
bien
ça
sûr,
Bien sûr. Le meilleur joueur du championnat danois, C'était, ça, il vient de North Island, le même club que Kudus. Si tu le mets à l'OM, c'est totalement différent, je trouve.
Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une idée intéressante. Et encore une fois, il faut que ça prenne.
Oui, il faut que ça prenne.
C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mmh. Et à l'OM, c'est pas gage non plus de réussite. Mmh. Et oui, surtout avec l'attente qu'on a.
En tout cas, Yacine, on a parlé des recrutements qui arrivaient. Au niveau vente, je pense qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus. On peut faire ça très rapidement. On a eu celle de Lodi qui est quand même conséquente. On a eu celle de Sanson à son arrivée qui a énervé AVB. On aurait dû avoir celle de Tchaletatsar. Et puis, on en a des plus décevantes, par exemple Guendouzi. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément les ventes, mais plutôt la manière dont on a valorisé ces joueurs. Dans le cas de Guendouzi, le joueur a été dévalorisé. Gerson, le joueur a été dévalorisé. Parce que justement, ça n'a pas matché avec le nouveau coach. Alors, on peut dire que c'est la faute du joueur. Moi, je pense qu'il y a une énorme part de responsabilité des joueurs. Mais je pense aussi que prendre un mec comme Gerson pour le système Sampaoli, avec certaines caractéristiques où tu avais déjà vu sur la première saison que quand le jeu est très vertical, demande énormément d'efforts physiques, ce qui était le cas de l'OM de Sampaoli au début, c'était plus compliqué. Par contre, quand on était dans un jeu de gestion un peu plus contrôlé, un mec comme Gerson s'épanouissait parfaitement et rayonnait, tu peux dire qu'avec Tudor, ça n'a pas matché, surtout qu'il s'embrouillait avec Tudor dès le premier entraînement, je crois. Donc, il y a aussi une forme d'anticipation qui n'a pas été bonne, je trouve, sur ces dossiers-là et qui ont impacté leur valorisation. Par exemple, je crois que la dernière pompe du mois d'août 2022, Longoria dit on est tellement bien financièrement qu'on s'est permis de refuser des très belles offres anglaises pour Gerson. 6 mois après, il retourne à Flamengo. Tu vois, donc je trouve qu'il y a une gestion au niveau de la valorisation des joueurs qui est pas forcément, tu vois. Et ça s'inscrit aussi dans le manque de, on va en venir juste après, hein, dans le manque de cohérence dans le contexte du projet sportif.
Je te trouve un peu dur sur ce sujet-là. Mmh. Effectivement, l'OM n'ait pas été très bon sur les ventes. Ça, c'est de le reconnaître. Maintenant, moi, je te trouve dur, par exemple, sur Guendouzi, moi, je ne partage pas complètement ton avis. Moi, je pense que vendre un bon joueur, ce n'est pas forcément le vendre au bon moment de sa valorisation. Il y a un aspect aussi, c'est que tu ne peux pas vendre un joueur au moment où il est indispensable à ton équipe. Par exemple, Guendouzi, c'est un exemple intéressant. L'été 2022, tu ne peux absolument pas le vendre vu l'importance qu'il a.
Non, Guendouzi, pas du tout. Non,
c'est impossible.
Je pensais plutôt à Gerson. Sur la fin de l'été, quand tu vois qu'avec Tudor, ça ne matche pas du tout.
Et là aussi, Gerson, je te trouve dur parce que Gerson, il commence la saison en tant que titulaire. Faut pas l'oublier.
Oui, mais t'as l'extra sportif, Yacine, où les mecs s'embrouillent quand même.
Après, Gerson, c'est un mec aussi qui a lâché mentalement.
Pour des raisons personnelles qu'on va pas évoquer aussi, parce que
oui.
En fait, il lâche avant la reprise, avant même le départ de Sampaoli, parce qu'il y a eu des trucs dans sa vie privée qui font que c'était plus compliqué pour lui.
Oui, mais après ça, tu peux pas forcément le. Tu peux pas forcément le
Oui, ça, c'est pas de la faute de Longoria, ça.
Tu peux pas le prévoir. Et puis, je veux dire, moi, je trouve au contraire qu'il a eu les. Excuse-moi, mais Longoria, il a eu une paire de couilles de faire partir Gerson en janvier, en fin décembre plutôt. Gerson, il s'est cassé quand c'est quand qu'il s'est écarté du groupe. C'est quand face à Francfort. Francfort, il revient en marchant. C'est un match que tu dois plier en deux. Je veux dire, c'est lui qui s'est écarté de la partie, quoi. Je veux dire, Gerson, il démarre la saison en tant que titulaire.
Ah oui, ça je le nie pas. Je t'ai dit, le joueur
Harit, a une... D'ailleurs, si tu te rappelles bien, Harit arrive en fin de mercato. Harit arrive un peu comme un, on va dire, un peu un, pas de joker, mais je veux dire, Gerson, c'est un peu écarté. Moi, je trouve que c'est un peu eux qui se sont un peu écartés tout seuls. Guendouzi, c'est un peu la même chose. Guendouzi, il était même titulaire sur la première partie de saison. Je veux dire, bon, ça a pas forcément matché avec Tudor. Tu sais, c'est aussi important qu'un président fasse respecter l'institution, que les joueurs ne prennent pas le dessus sur le coach.
Non, on est d'accord.
Se permettent pas d'écarter un coach, parce que ça arrivait trop souvent. C'est aussi comme ça que tu permets d'installer un vrai projet. Parce que si on veut installer un vrai projet sur le long terme, il faut que les joueurs sachent rester à leur place, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose d'important. Guendouzi, c'était pas forcément le cas. Et après, tu ne pouvais pas le vendre à l'été 2022. Janvier 2023, alors, c'est posé un peu la question, parce que c'est vrai qu'il était un peu sur le marché, Mais il était aussi titulaire à l'époque et t'avais l'arrivée de Malinowski à boucler et puis il n'était pas partant pour partir. Et puis après, à l'été 2023, en fait, t'as pas le choix, tu rates la Ligue des Champions. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Guendouzi n'est plus indispensable dans l'effectif de l'OM. Mmh. Donc, c'est un concours de circonstances qui font que tu vends moins cher. Tu sais, si tu prends comme ça, Riles, on va remonter à l'ancienne époque, mais Ribéry, tu l'as vendu à 25 plus 5 millions, donc 30 millions au total. Mm-hmm. Et si tu voulais, tu pouvais le vendre 10 millions de plus en le vendant un an plus tôt. Est-ce que derrière, tu aurais eu la Ligue des Champions derrière à son Ribéry? Je ne pense pas. Il y a un équilibre aussi avec le sportif. Pas forcément vendre à la meilleure valeur du joueur. Alors, c'est vrai que des fois, tu t'es un peu loupé. Quand tu regardes l'épisode Loïc Rémy, tu te dis que tu t'es...
Yacine, justement, c'est pas sur le fait de quand tu vends, même si je t'ai parlé de l'anticipation sur Gerson. Pour moi, je t'ai dit, déjà, le joueur est très responsable, surtout dans le cas de Gerson, et encore plus son père. Je pense que si on fait la part de responsabilité, il y a 80% Gerson, 10% le coach, mais je pense que c'est même pas 10%. En vrai, je dis ça pour être sympa avec Gerson. Et 10% le projet. C'est-à-dire qu'un mec comme Gerson, tu peux te dire que ça n'a pas matché avec lui en Italie. C'est pas un fainéant, mais il a adapté pour un certain style de football. Il aimait bien Sampaoli. Et tu peux te dire que lorsque tu vas prendre un tournant, tu vas demander de la rigueur, tu vas prendre un truc qui est assez italien, même tu vas changer de système, tu vas passer en 3-4-2-1. Tu sais pas trop où le caser parce qu'avec Sampaoli, il était assez libre sur le terrain. Tu peux quand même te poser la question, te dire, est-ce que c'est pertinent? Je ne te dis pas le vendre, mais en tout cas, de ne pas venir en fin de mercato et dire, on s'est permis de refuser des offres pour notre meilleur joueur, on va le garder. On va... Tu peux quand même déjà te dire que potentiellement, ça va pas être, de ne pas être si serein. Je ne dis pas qu'il fallait le vendre, mais peut-être au moins anticiper ça et anticiper la potentielle fracture avec Tudor, surtout quand on sait qu'il y a eu des embrouilles. Alors...
Toi, à ce moment-là où Tudor arrive, tu te dis que Gerson n'a pas le...
Moi, je savais que ça allait être compliqué pour Gerson, mais déjà pas par rapport à Tudor, par rapport aux problèmes personnels. On ne va pas rentrer dedans.
Moi, je pense que... Après, forcément, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais dans le projet de jeu de Tudor, c'était pas farfelu d'avoir Gerson derrière
je me disais ça aussi au
c'était
début,
même très intéressant parce que Gerson alors c'est vrai qu'il a un côté un peu rechignant, mais il a des qualités techniques et même athlétiques. J'insiste sur le mot athlétique parce que c'est un fond lent très puissant qui a une conservation de balle exceptionnelle, qui a une agilité incroyable, qui a une capacité à se retourner qui fait que l'association aurait pu être redoutable. Hein. C'est dommage que ça n'a pas pris. Mais après, moi, je trouve sur Gerson, je trouve que l'idée intéressante, c'est un joueur qui t'a apporté, qui a participé grandement à la deuxième place avec Sampaoli, qui malheureusement n'a pas super bien marché sous Tudor. Tu l'as vendu quasiment au même prix que tu l'as acheté. Bon, voilà. Je peux pas appeler ça une erreur de casting.
Non, mais j'irai pas jusqu'à erreur de casting, mais juste dire que le cadre, de toute façon, c'est pour embrayer aussi sur le prochain sujet, c'est que l'instabilité du cadre aussi va rendre plus difficile l'adaptation pour un joueur.
Tu vois le recrutement, parce que c'est qui est censé numériquement remplacer, on va dire, Gerson. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque... Oui, voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, tu te dis, je vais recruter soit deux milieux offensifs, soit un milieu offensif et un attaquant. Mais il fallait un milieu offensif, au moins un milieu offensif, parce que tu avais Harris qui venait de se faire croiser et Gerson qui partait au Brésil. Donc, avec la possibilité d'entrevoir aussi Onaï qui puisse jouer un peu plus haut aussi, tu vois. Donc, moi, je trouve que Gerson, ça fait partie du joueur que tu as vendu au bon moment, en fait. Je vais te dire la vérité, tu l'as acheté au bon moment, tu l'as vendu au bon moment.
Surtout au final, tu fais une plus-value quand même, quoi,
En plus, voilà. Après, je pense globalement, c'est quand même le même prix. On est sur le même prix, me semble, entre. Voilà, on est quasiment sur le même prix d'achat et de revente, quoi. Donc.
En tout cas, Yacine, si on doit parler de mercato.
Sur Guendouzi, par contre, tu vois, moi, je te rejoins pas. Tu voulais le vendre à quel moment, Guendouzi?
Guendouzi, c'est pas par rapport à ça. Guendouzi, c'est plutôt par rapport à la mise en valeur du joueur, c'est-à-dire que. En fait, sous Tudor, lorsque tu commences à, En fait, faut remarquer que sur la première partie de saison, avec Tudor, il joue parce que tu n'as pas d'élément offensif qui est capable de fournir des efforts défensifs conséquents. Ouais. Et du coup, tu mets un peu ton chien au milieu de terrain. Le mec qui récupère des ballons, qui te permet d'avoir une ligne de pression plus intéressante haut et qui fait ton succès malgré du coup l'absence d'un joueur offensif qui peut faire ça, donc qui est Malinovski lorsqu'il est arrivé. Sauf que Malinovski, au final, tu perds aussi avec ballon, même si Guendouzi n'est pas un crack non plus dans le dernier tiers avec ballon. Malinovski rend pas forcément satisfaction. Et ce que je voulais dire, c'est que Guendouzi, par exemple, aurait pu postuler à un poste au milieu de terrain, sauf que quand il revient de Coupe du Monde, il s'embrouille avec Tudor. En fait, c'est lorsque les joueurs reviennent de l'équipe de France, donc lui et Veretout, Tudor lui demande de refaire une préparation. Parce que le groupe a refait une préparation, lui revient de la Coupe du Monde. Et il s'embrouille avec Guendouzi sur ça. Et c'est là où ça a complètement cassé avec le coach. Je ne dis pas qu'il fallait le vendre en janvier, hein, au contraire. Et que Guendouzi, au final, sur la deuxième partie de saison, il joue, mais tu remarques que ça devient remplaçant. Il est lâché, et que lui est lâché. Et au final, ça consiste à faire chuter drastiquement la valeur marchande du joueur, alors qu'il était pisté par l'Inter Milan, je crois, sur le mercato de janvier. Je ne sais plus c'est quel mercato, où l'Inter fait une offre pour Guendouzi. Et Aston Villa aussi, il y avait deux clubs sur lui. Et tu te retrouves à le vendre à la Lazio au fin du mois d'août. Donc, ça n'a pas forcément aidé sur sa valorisation. Et là, c'est pas plutôt « fallait le vendre à telle ou telle époque », mais c'est plutôt « en fait, quand tu fais ton choix du coach, regarde aussi l'effectif que tu as ». Et ça revient aussi sur Marcelino. Moi, il y a autre chose dont je voudrais parler par rapport au mercato, par rapport à la gestion sportive du mercato, c'est le temps qu'on laisse aux joueurs. C'est-à-dire le six mois, si ça marche pas…
Arilès, excusez-moi, ça avait un peu coupé sur la fin pour Guendouzi, mais j'ai globalement compris le sens de ton propos. Moi, je comprends. Je comprends qu'il y ait cette part de frustration parce que tu n'as pas forcément réussi à tirer le meilleur de Guendouzi. Ça, je te l'accorde. Après, dans un projet sportif, quelle part de pouvoir tu laisses aux joueurs ? C'est ça qui est intéressant. Et moi, je trouve au final... Après, c'est sous quel angle tu vois les choses ? Tu peux le voir sous ton angle. Moi, je le regarde plutôt sous l'angle où tu fais pour une fois respecter l'institution, où tu fais... où le joueur ne décide pas, où le joueur, quand il arrive à l'OM, il comprend qu'il y a des règles et que c'est pas parce que j'ai une certaine valeur que je prends le pouvoir. Parce qu'au final, le football français, un peu, si tu regardes les problématiques du football français, c'est là où je trouve que Longoria a été très intelligent, c'est que le football français a souffert de ça, en fait. Le football a souffert des valeurs marchandes qui prenaient le pouvoir sur les clubs. Et je pense que pour mettre en place un projet sportif cohérent sur le long terme, il faut qu'un joueur sache rester à sa place.
On est d'accord sur ça, Yacine.
Maintenant, sur Guendouzi, écoute, un joueur, s'il n'a pas eu l'attitude adéquate, j'ai envie de te dire, tant pis, il est transféré. Alors forcément, tu ne l'as pas vendu au meilleur de son prix. Par contre, en fait, pour mettre en place le projet qu'a Longoria, avec Tudor, il faut savoir avoir les moyens de renouveler l'effectif. Surtout si tu n'es pas en Ligue des Champions. Et c'est là où, peut-être l'OM n'avait pas les moyens de ses ambitions, au final. Je trouve que le dossier Guendouzi résume. Il met en valeur ce côté-là. Parce que si derrière, tu as les moyens d'aligner 10-15 millions sur un joueur pour compenser un potentiel départ de Guendouzi, l'histoire peut être la même. Mais après, est-ce qu'au final, l'OM avait les moyens de ses ambitions d'installer une telle rigueur, une telle exigence ? C'est là où on a vu nos limites. Mais l'initiative qu'a eu Longoria sur ce dossier-là, je la trouve extrêmement intéressante, et c'est quelque chose qui est à suivre. C'est pas parce qu'un joueur a une valeur marchande qu'il doit faire ce qu'il veut.
Yacine, par rapport à ça, moi j'ai franchement un avis qui est assez similaire au tien sur les joueurs. Non, moi il y a un seul truc que je déplore un peu, et même on en avait parlé sur le média, c'est le temps qu'on leur laisse. C'est-à-dire certains joueurs à qui on a laissé 6 mois et pas plus. Alors lorsque c'est un échec, on est d'accord qu'il faut réparer l'échec. Par exemple Suarez, même si je pense que son remplaçant, au final, n'a pas été forcément meilleur que lui. Je trouve même que Suarez est meilleur que Vitinha.
Je te trouve dur.
Mais en fait, je ne le trouve pas moins bon, en tout cas. En tout cas, je le trouve vraiment pas moins bon.
Je te trouve quand même un peu dur.
Suarez, si tu regardes son temps de jeu à l'OM, c'est 300 minutes. Et pourtant, il marque. Et,
Oh, il marque, mais après, c'est. Il
a ouais, des mais si tu vois, je trouve que si tu lui laissais un peu de temps, je te dis pas que ça allait être. Mais ça pouvait être un remplaçant intéressant, un remplaçant intéressant à Sanchez.
Je pense qu'il a montré beaucoup trop de lacunes pour.
Oui, mais Vitinha, pour moi, tu en as montré quand même.
Après, sur les 6 mois, je veux bien que tu me parles de 6 mois, mais tu trouves que Guendouzi, on l'a laissé 6 mois?
Non, justement, c'est pas par rapport à Guendouzi, c'est par rapport à d'autres joueurs. Malinovski, on parlait de Malinovski tout à l'heure. Alors oui, son rendement n'est pas satisfaisant. Tu as parlé de l'aspect psychologique. Mais Malinovski, il faut aussi dire que comme Verretou, il vient de Serie A, il était là-bas depuis un certain temps. Il faut aussi dire que Malinovski, partout où il est passé, la période d'adaptation a été de 6 mois. À Genk, les supporters disaient qu'il était nul au bout de 6 mois. Au final, c'est une très belle surprise et il va à l'Atalanta. L'Atalanta, l'adaptation met un peu de temps et après, il est top. Et à Marseille, il change de championnat après rester un certain temps en Serie A. Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de top sur les premiers mois, surtout qu'il n'avait pas joué. Il n'avait pas joué avant. Ah, et quand même, tu ne sais pas.
Je vais te répondre. Moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que c'était quand même un joueur confirmé au moment où il vient.
Mais même Veretout, lorsqu'il vient, est confirmé. Et pourtant, sur les 2-3 premiers mois,
mais c'est pas pareil. Il y a une forme physique, forme athlétique qui n'est pas optimale. Et puis Veretout, ce que je veux dire, c'est que Malinovski, tu sens qu'il n'y a pas eu de progression. Tu sens qu'au fur et à mesure, il s'est un peu plus enfoncé, il est devenu un peu plus transparent. Là où Veretout, c'est un peu plus affirmé dans le jeu au fur et à mesure.
Oui, c'est différent. Mais tu vois, différent. Par exemple, tu te rappelles du premier match de Veretout à Auxerre ou pas?
Où tu gagnes 2-0 à Auxerre, tu veux dire?
Et tout le monde disait, mais il est physiquement, il est cuit, il est mort pour la Ligue 1. Après, il avait l'avantage de déjà connaître la Ligue 1, donc il devait juste réembrasser la Ligue 1. Un mec qui n'est jamais venu en Ligue 1, qui avait pas mal d'espace en Italie, fallait vraiment une adaptation pour lui. Tu vois, Vitinha, moi j'en ai parlé, justement, ça pourrait faire une contradiction, parce que sur Vitinha, je dis que dès le début, tu vois qu'il y a un problème. Mais Inovski, en fait, contrairement à Vitinha, il a un apport. En fait, il a un apport, même s'il n'est pas bon, tu vois, dans les gros matchs.
Oui.
Il avait la passe à certains moments. Par exemple, lorsqu'il lance Tavares lors du deuxième match face au PSG. Son match face au PSG, toute l'équipe est vraiment bonne, mais lui est vraiment bon.
Il a une qualité de frappe de balle qui est intéressante, faut se dire. Non, mais après Malinovski, c'est un peu effacé. Il a jamais. Tu as senti qu'il a jamais retrouvé un peu aussi son physique. Il était devenu un peu très lent sur ses appuis aussi. Moi, je pense que pour Malinovski. Moi, j'étais partisan de le garder cet été pour pouvoir le relancer. Maintenant, Marcelino, je pense visiblement ne comptait pas sur lui. Après, on en revient en fait au changement radical de projet qui fait que là, pour le coup, alors de projet, de système de jeu, donc ça joue contre Malinovski. Puis après, Malinovski, il y a, je pense, des données personnelles qui font que. Tu sens que ça a pris le dessus sur le joueur en fin de saison aussi. D'un point de vue personnel, tu sentais que. Après, c'est un paramètre qui fait que tu. Que tu aurais peut-être dû prendre en compte. Mais tu as quand même senti, Arias, si tu regardes bien la demi-saison de Malinovski, qu'il y a eu des débuts, du moins corrects, sans être bons, ou du moins des débuts honnêtes. Et puis, il a un peu plongé dans le vide. Sur la fin de saison, Malinovski, tu vois bien qu'il n'a pas réussi à prendre le.
Mais en tout cas, Yacine, on est d'accord. De toute façon, il y a toujours des circonstances atténuantes qui expliquent les choix. Hein. Les choix ne sont jamais irrationnels.
C'est pas forcément le niveau de Malinovski.
Moi, je pense plutôt un mec. Au-delà de Malinovski, je pense aussi un mec comme Bakambu. Alors, on pense ce qu'on veut de Bakambu. Hein. Quand il arrive, il avait fait 6 mois à Basic Fit et ici à l'OM après un passage en Chine. Sous Sampaoli, on va se dire la vérité. Il n'est pas exceptionnel, mais il te met des buts. Je ne sais pas si c'est un attaquant qui t'a mis des buts aussi décisifs hormis Sanchez
sur des matchs clés. Il a marqué à Lens, il a marqué face à Strasbourg, il a marqué à Metz aussi.
Nice, donc, le match contre Nice.
Il met quelques buts importants, Bakambu, en vrai. Hein.
Il te met des buts importants. Et au-delà de ça, tu lui vends un projet, tu lui dis sur 2-3 ans. Et en vrai, Bakambu, quand tu voyais son salaire, parce que son salaire n'était pas de 400 000 euros, c'était la prime qui était étalée sur son... Sur sa durée de contrat, et tu te retrouves avec 200-250 000 euros sur un joueur qui avait quand même un certain pédigré. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi tu le dégages pendant l'été pour enregistrer des nouveaux joueurs en Champions League. Là, tu vois, franchement, j'avais trouvé ça très dommageable. Et ça fait partie des cas que je te dis où où franchement,
oui.
L'instabilité d'effectifs a été renforcée sur des gestions sur certains dossiers qui sont plus que discutables. Mais de toute façon, moi, instabilité d'effectifs.
Sur Bakambu, tu as raison, parce que Suarez, il n'a pas apporté plus que Bakambu. Tu as raison. Après, rappelle-toi quand même un petit détail sur Bakambu, c'est qu'à l'époque, beaucoup critiquaient le choix de Bakambu en disant que tu allais barrer la route à Dieng. Hein, tu vois,
enfin, moi, je suis dans ma position. Moi, franchement, je trouve que Bakambu, c'était un super coup, même s'il pouvait. Il avait pu être. Certaines fois un peu être
après, frustrant.
Moi, je trouvais que c'était vraiment un bon coup.
Je comprends en fait qu'il y a cette frustration que tu n'as pas assez insisté sur certains profils de joueurs, que le changement de coach, parce qu'au final, quand tu changes de projet de coach, de projet de jeu, ben, tu es obligé de te séparer certains joueurs. Et en fait, ce qui est un peu frustrant dans ce que tu évoques, je le comprends. Et ta frustration sur Malinovski et Bakambu, elles ont un point commun. Tu sais quoi? C'est qu'après Tudor, il y a Marcelino et que Bakambu aurait été fait pour Marcelino et qu'après Marcelino, il y a Gattuso et que
Gerson aurait été fait pour Marcelino, je pense. Je pense que c'est Gerson aurait
fait pour Marcelino et Malinovski aurait peut-être été fait pour Gattuso. Et elle vient de là, la frustration. En fait, ta frustration sur les 6 mois, c'est que tu dis en fait, limite prête le joueur et peut-être l'année prochaine, il sera adaptable pour le prochain coach. Mmh. C'est un peu que j'ai l'impression ce qu'il ressent. Et c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est ça aussi. En fait, quand tu multiplies les opérations et que tu multiplies les changements de coach, tu te retrouves dans ce genre de situation.
Pour moi, l'instabilité d'effectif, l'instabilité sur le banc, par absence également de continuité. Il y a la stabilité, la continuité renforce la stabilité, fait qu'il y a une instabilité d'effectif et ça renforce tout ça. Et pour moi, au niveau de la direction sportive, c'est surtout ça qui a déploré, et je te laisse donner ton avis, Yacine, sur Pablo Longoria. C'est que c'est très intéressant hein, sur certains aspects du mercato, même les noms qu'on a eu. On a quand même eu le droit à un an d'Igor Tudor, où j'ai trouvé que c'était franchement un des passages les plus intéressants sur le banc de l'Olympique de Marseille, même si pas forcément récompensé par un trophée. Mais le manque d'instabilité fait que tu ne peux pas construire comme par exemple à Lens. Alors on peut dire Lens, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas la même pression. Oui, mais aujourd'hui, Lens, ils gardent un coach sur 3 ans. Et il y a des clubs en Europe qui gardent des coachs sur 3 ans. Ou même des clubs en Europe, lorsqu'ils ne gardent pas un coach sur 3 ans et qu'ils en font 3 en un an, prennent des coachs similaires. Alors, ils ne vont pas prendre leurs jumeaux, parce que ça n'existe pas, un coach qui est identique à l'autre. Mais qui ont une filiation, tu vois, qui utilisent soit le même système, qui ont les mêmes idées. C'est-à-dire, bah, un coach, tu ne passes pas d'un coach qui prône un pressing tout terrain à un mec qui prône un bloc bas, enfin, c'est ce qu'on a tout eu avec Tudor et Marcelino. Donc moi, c'est ça que je déplore au niveau de la direction sportive. Et je trouve qu'il y a au niveau du bilan, moi je propose mon bilan en tout cas là pour l'instant sur ce qu'on a dit, le mercato, la direction sportive, et on va finir avec tout ce qui est institutionnel. Yacine, c'est qu'au niveau de la direction sportive, c'était très pertinent au début, mais l'absence de continuité, en fait tout ce qui faisait que le projet de Longoria était alléchant au début, les coachs nommés, la pyramide salariale aussi dont on n'a pas parlé, qui a un peu été impactée par la suite, le recrutement de réseau, la politique de recrutement, les recrues, bah, ça s'est un peu effrité avec le temps, ça s'est un peu retourné contre lui. Et ce qui fait que bah, le bilan à l'heure actuelle, avec ce qui s'est passé sur la dernière année, montre qu'au niveau de la direction sportive, Longoria n'a pas su faire son travail de dirigeant, qui est d'avoir un cadre, de le respecter, de prendre des gens et de le ramener dans le cadre, et pas au contraire de prendre un coach et de remodifier son cadre. Et pour moi, c'est ça le gros problème. Toi, je ne sais pas si Yacine, tu as un bilan en particulier par rapport au
mercato. Non, moi, je n'irai pas aussi loin que toi. Je pense que le plus dur, c'est de recruter. Ça, c'est indéniable. De mettre en place un projet sportif, parce que mine de rien, mettre en place les projets sportifs qu'il a mis en place, ça demande des qualités. Après, malheureusement, tu as parlé d'un mot qui est très, très important, c'est le manque de continuité. Mmh. Et le manque de continuité n'a pas valorisé le travail de Longoria, et c'est bien dommage. Mais... le plus important, c'est d'avoir moi j'aime valoriser les gens qui ont des idées et les gens qui ont les capacités de les mettre en place. Et je trouve que c'est très très dur dans le football d'aujourd'hui de pouvoir le faire, et j'aime valoriser ça. Après, c'est une manière, tu regardes le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est toujours un peu comme ça. Et en fait, pourquoi je regarde le verre à moitié plein, parce que je regarde ce qui se passe ailleurs en fait, chez nos voisins français. Et c'est là où je me dis, bon, il a quand même eu des idées, il a réussi à les mettre en place. Après, c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à les valoriser avec ce manque de continuité. Mais le constat, il est le même. C'est juste le regard de l'angle qui est différent.
C'est ça. Yacine, on va finir avec le point de vue institutionnel avant de livrer notre bilan et un tout petit peu parler de la suite. Je sais que toi, il y a quelque chose qui te tient à cœur et je vais te laisser t'exprimer là-dessus. C'est par rapport au bilan de Pablo Longoria dans sa relation avec les institutions, mais également dans sa communication.
Alors, moi, je pense que dans le bilan de Longoria, tu sais que je fais partie des gens qui pensent que son bilan est positif, très positif. Mais je pense qu'il y a deux erreurs. Donc, il y a peut-être le manque de continuité. Et je pense qu'il n'a pas réussi à défendre ou à mettre à défendre les intérêts de l'OM au niveau de l'arbitrage. Parce que je trouve, tu vois, qu'on est très critique sur le résultat, mais à juste titre, hein, mais globalement, par exemple, on critique le choix, par exemple, de Malinowski, de Guendouzi ou quoi que ce soit. Mais en termes de résultats, l'année de Tudor, elle est quand même très bonne, hein, en termes de points. Et je pense que cette année-là, l'OM s'est fait voler au niveau de l'arbitrage. Je vais employer un mot qui est un peu fort. Mais contre Monaco, tu te fais voler. Contre Strasbourg, Balerdi prend deux matchs de suspension pour un rouge qui, bon, il peut prendre rouge, mais les deux matchs de suspension sont très durs, d'autant que le match suivant sont Lorient et Montpellier, il me semble. Non, pas Lorient et Montpellier. Il y a un match à Reims, puis après contre Montpellier. Et le fameux match contre Montpellier, il est juste après la trêve. Ils le mettent exprès un vendredi, 48 heures après un match d'Mbemba, donc ça veut dire que je te retrouve sans Mbemba et Balerdi, qui est quand même très dur. Il me semble qu'il y a Nuno Tavares aussi qui a été absent. Donc ça complique énormément la donne. T'as le fameux match à Lens. T'as énormément de matchs où tu te fais voler au niveau de l'arbitrage, où tu te fais pas respecter du moins au niveau des instances. Tu peux aussi peut-être évoquer les matchs que tu dois gagner sur tapis vert à l'époque contre Nice et Lyon. Après, c'était quand même très compliqué. Tu avais quand même Olas en face qui était bien en place. Mais du moins, il y a le match au Parc des Princes. Là, je lui en veux un peu sur le match au Parc où en 2022-2023, tu perds 1-0, où lui et Tudor refusent de parler d'arbitrage alors que tu te fais voler deux pénaltys.
Et tu te faisais déjà voler 6 mois avant avec Sampaoli.
Et 6 mois avant, tu te fais voler avec Sampaoli. Et je pense que sur cet aspect-là, il n'a pas été assez ferme. Tu l'as payé derrière contre le Panathinaikos, parce que Panathinaikos, c'est un énorme vol. Est-ce qu'on se rend compte quand même qu'au match aller, il n'y a pas eu de VAR? Parce que s'il y a une VAR, Kondogbia, il ne se fait pas expulser normalement. Enfin, le premier jaune est très, 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 très sévère. Au match retour, enfin, il y a un pénalty qui doit être sifflé sur le but du 3-1 qui est refusé. Il y a eu un deux poids, deux mesures au niveau de l'arbitrage qui s'est fait ressentir. Et je pense que Longoria n'a pas assez défendu l'OM sur ce terrain-là. Voilà. Qu'il n'a peut-être pas réussi à le faire. Il faut savoir aussi s'imposer et sur ce terrain-là. Après, je sais qu'il avait quand même des rôles intéressants au niveau de la LFP, au niveau de l'ECA. D'ailleurs, s'il est amené à partir, ce que je pense, ben, on risque de perdre son poste à l'ECA. Donc ça, c'est une des plus grosses défaillances malgré le bilan positif de Longoria.
Par rapport à ça, je te rejoins. Moi, je pense que plus généralement, ça prouve que le profil de Longoria est assez particulier. Je pense de toute façon, là, on a un peu parlé fou. C'est un directeur sportif de base, mais à l'Olympique de Marseille, il a été nommé par Franck McCourt comme un gestionnaire. Plusieurs raisons. Tu l'as dit, l'OM avait du mal à recruter des joueurs en Ligue 1 parce que les prix devenaient chers. Bah, tu ramènes un mec qui a un réseau. Donc, tu as un bon gestionnaire, un mec qui, à la fois, a une bonne connaissance du football parce qu'il a été scout, a des bonnes relations parce qu'il a un réseau, et généralement est quelqu'un d'intelligent et même d'assez innovant, qui rentre un peu en... Qui en construction s'oppose énormément à Zubizarreta et Jacques Henriero juste avant. Mais c'est quand même quelqu'un qui a des défauts, c'est que le rôle de président exige d'être un excellent communicant pour défendre les intérêts de son club. Ça, c'est là, je pense, le point sur lequel on peut énormément le critiquer. Mais également, pour expliquer son projet sportif. Ça, au contraire, je trouve qu'il est très fort là-dessus. Donc, je te comprends totalement dans ta critique. Mais c'est vrai qu'au niveau de la défense des institutions, on n'a toujours pas ce président un peu, certainement, Pape Diouf de Vélette, en tout cas, lorsqu'il avait pris la décision d'envoyer les minots contre le PSG, qui défend vraiment les intérêts de l'OM jusqu'au bout.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il montre que l'OM est une place forte du football français et que l'OM ne se fera pas avoir. On n'a pas parlé d'une chose, mais de CVC. Le deal CVC, je trouve que pour l'Olympique de Marseille, c'est une honte. Est-ce que c'est Longoria ? Est-ce qu'à ce moment, c'était pas Jacques-Henri Hérault qui était qui était là
Parce
qu'il me semble que Hérault est, en tout cas, c'est sous le mandat de Longoria en tant que président. Est-ce que c'était Hérault qui gérait les affaires avec la Ligue à ce moment-là ?
C'est Hérault qui gérait les affaires avec la Ligue. Sur ça,
à ce moment-là. Hérault.
Exactement. C'est Hérault qui avait son rôle, qui était d'ailleurs au conseil de surveillance.
Mais en tout cas, je trouve que les intérêts de l'OM devant la Ligue ne sont pas assez défendus. Et je pense que ça dessert l'OM. Je pense que sur l'arbitrage, c'est honteux de te faire arbitrer comme une petite équipe, systématiquement en Europe, comme en Ligue 1. À un moment, il faut que tu fasses parler le poids de ton club. Quand tu joues à domicile, tu n'as pas le droit de te faire voler.
C'est ça. C'est vrai que ça rappelle du fameux match contre Lyon avec Sampaoli. C'est incroyable le vol de ce jour-là, avec la main de Dembélé, puis même ce... le but, l'ouverture du score lyonnaise où tu as le bras qui est écrasé de Paul Lopez qui est écrasé carrément par un Lyonnais. Tu as raison sur ce point-là.
Tu peux pas invoquer l'esprit Coubertin quand tu te fais voler systématiquement et qu'en face justement un club comme Lens communique après chaque fin de match. Tu peux pas te contenter d'un Mamma Mia, il y avait penalty après la faute de Kolasinac qui coûte 3 points. Et peut-être que si à ce moment-là tu prends ces 3 points contre Monaco, t'enchaînes une 8e victoire d'affilée et que tu joues, je dis pas qu'on va être champion parce qu'on gagne contre Monaco, mais peut-être que tu renforces encore plus ta dynamique et tu t'imposes comme une équipe qui vise le titre.
Il faut savoir se faire respecter. Et en fait, je pense que Pablo, il a été au niveau de sa communication vis-à-vis du football français en général trop séducteur. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire des choses qui te déplaisent au niveau de l'arbitrage parce qu'on va pas se mentir dans le football français. C'est un peu démago. De ne pas critiquer l'arbitrage, de ne même pas supporter son club. Au final, on est quand même, ça prouve encore que la France n'est pas encore un pays de football. Mais oui, l'arbitrage fait partie d'un match. On ne peut pas se cacher, évidemment, derrière l'arbitrage. Par contre, quand c'est régulier et que ça impacte sur une saison, il faut quand même le signaler, ça ne peut pas être toujours dans le même sens. Quoi. Sur ça, il s'est trompé. Après, par contre, il y a un dernier point moi, que j'aimerais évoquer avec toi. C'est sur le côté institutionnel au club que j'ai envie qu'il laisse cet héritage aussi, tu vois. Qui est pour moi, que j'ai envie d'évoquer avec toi, tu vois, c'est le côté... C'est la rigueur et le respect d'une institution. Tu vois, moi, j'ai vu des employés qui n'avaient pas forcément un grand rôle au départ lorsque Longoria est arrivé, que Longoria a fait monter parce que c'était des mecs qui bossaient comme des malades jusqu'à très, très, très tard le soir. Et il a fait respecter cette culture du travail à tous les étages. C'est que si tu ne travaillais pas, entre guillemets, je vais mettre des guillemets, mais tu dégageais. C'était un peu ça avec lui, tu vois. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'aimais bien. Justement, il n'y avait pas ce côté copinage au sein même du club. Cette volonté d'installer la rigueur du travail, du respect envers les supérieurs. Par exemple, quand des joueurs ont cherché un peu à polluer le travail de certains coachs, ils ont rapidement été mis à l'écart. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai envie. Je pense que le succès de l'OM, le succès futur, parce que l'OM rebondira tôt ou tard, il passera par cet état d'esprit-là, de faire respecter une institution et à tous les étages. Voilà.
Parce qu'en somme, Yacine, avec tout ce qu'on a à peu près dit, je pense qu'on peut en arriver au bilan. Je pense que la question qui se pose, c'est comment concevoir pour l'instant le bilan de Longoria à l'OM, en sachant que on l'a dit, nous. Sur nos réseaux, tu partages à peu près le même avis, c'est que il va certainement partir dans les prochains mois, certainement à la fin de saison. En tout cas, c'est la tendance qui se dégage d'à peu près toutes nos sources, en tout cas. Nous, de notre côté, toi, je ne sais pas si c'est un bruit de fond que tu as entendu ou si c'est vraiment la grosse tendance.
Évidemment que je dis pas ça sans, que par mon opinion du Saint-Esprit, hein. Mais j'entends certaines choses. C'est moi mon opinion, j'insiste sur le mot opinion parce que voilà, après
il y a que lui qui sait en soi, il y a que le voilà. Qui le sait. Mais quand tu vois déjà sa mise en retrait sur le mercato de janvier où c'est vraiment Benatti à la manœuvre, alors que c'est justement un mec, même quand il y avait Ribalta qui aimait avoir la main sur ça, tu peux te dire que
il faut pas être dupe. Il y a eu une réunion d'organigramme il n'y a pas longtemps dans les locaux à l'Olympique de Marseille. Il y a certaines choses qui ont été dites. Voilà, on parle pas par hasard. Iriondo, quand tu vois que le vrai bras droit d'Iriondo, ils ont un lien très spécial, hein, les deux. Hein.
Ils sont meilleurs amis depuis une dizaine d'années.
C'est même pas c'est que ça.
Ils ont grandi ensemble.
Iriondo et Longoria, donc c'est. Iriondo travaille à la FIFA, mais ils ont grandi ensemble. Ils viennent du même village, même quartier.
Mais c'est parce que beaucoup parlaient de Marcelino. Marcelino, c'est plutôt un collègue de travail qu'il a eu à Huelva.
Oui. Mais Iriondo, c'est son vrai proche.
Et Iriondo, ils sont vrais amis. Avec Ribalta, c'est.
Il y a une loyauté.
Avec Ribalta, c'était plutôt quelque chose. Un lien, parce qu'ils ont travaillé à la Juve. D'ailleurs, le lien avec Ribalta, c'est effrité, contrairement à Marcelino, si on doit rentrer dans les détails, hein, parce qu'il y a eu des points de
désaccord.
Et moi, personnellement. Encore une fois, sur le passage de Longoria, parce que là, on en parle sur la conclusion, je trouve que la nomination de Ribalta, malgré l'arrivée de Tudor, a été aussi un très mauvais choix, surtout ce qui s'en est suivi, ce que Ribalta a fait au club, que ce soit la gestion du dossier du neuf, la communication aussi, on n'a pas parlé sur les réseaux sociaux, là, ça concerne pas du tout Longoria. Mais quand tu vois la crise de septembre, tu comprends mieux pourquoi des gens veulent sauter Longoria, parce que ce soit à la fois... le monde de la presse où les gens se sont un peu où le club s'est un peu détourné d'eux pour privilégier des moyens de communication conventionnels, c'est de la rigueur qu'ils imposent en interne qui peut déranger des historiques, mais aussi le comportement de certaines personnes qu'il a nommées qui dérangeaient énormément. Et là, je prends encore l'exemple de Ribalta sur le dossier Dieng, la gestion de Ribalta est c'est assez immoral, tu vois. C'est pas interdit, mais c'est assez immoral. Même si le clan Dieng aussi, il participe, mais c'est quand même le club en premier qui balance l'idée. Certaines techniques de communication sur certains joueurs. Tu vois, ça comprend un peu mieux pourquoi des gens veulent le sauter, mais ça ne justifie pas non plus tout ce qui s'est passé en septembre. Dieng,
si tu regardes bien, il n'y a qu'une seule victime dans l'histoire, c'est le joueur.
Ouais, bah oui.
Ça me fait énormément de peine pour le joueur. Oui, il y a autour de l'entourage de Dieng aussi, il n'y a pas des enfants de cœur, hein, c'est quand même important aussi de préciser. Mais oui, Ribalta a commis certaines erreurs. Après, tu sais, c'est aussi un président de savoir bien s'entourer, ça c'est une qualité de savoir bien s'entourer. Peut-être que si Tessier est nommé à la place de... parce que c'est le nom qui revient le plus souvent, on va se le dire avec franchise, que Tessier pourrait prendre la place de Longoria si Tessier venait à être nommé, il faudra bien s'entourer. La qualité première d'un président, c'est de savoir bien s'entourer. Après, pour faire un bilan de Longoria globalement, le bilan, il faut toujours savoir à quelle échelle tu le fais. Faut aussi regarder ce qu'a eu l'OM juste avant et regarder les derniers résultats de l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve que son bilan, il est positif. Vraiment.
Oui. Il faudrait vraiment être fou pour dire qu'il est négatif.
Les résultats parlent pour lui déjà sportivement. Économiquement aussi, il faut savoir que le déficit a baissé d'année en année. Alors, c'est vrai que la politique salariale est toujours restée très gonflée. On est dans les mêmes eaux que l'époque Héro. Mais le déficit a quand même baissé. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Je trouve qu'il a laissé. Plus que ça, plus en termes d'héritage, il a laissé des idées qui seront très importantes pour le futur qu'on a développées tout au long de l'émission, que ce soit sur la politique de recrutement, à savoir viser les réseaux étrangers qui seront moins onéreux, viser aussi, je pense au niveau de la culture de travail, alors on l'a un peu moins développé, on l'a fait sur la fin de l'émission, mais la mise en place d'une culture du travail à tous les étages au sein du club, c'est quand même quelque chose de très important.
Ah oui, oui.
Il a laissé cet héritage-là. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'important et c'est quelque chose qui va, qui va être indispensable pour le futur succès de l'OM. Parce qu'un club comme l'OM, c'est tellement un grand club qui finira par rebondir. Voilà. Enfin, c'est pas, on ne parle pas d'un club, avec tout le respect que j'ai, il y a des clubs qui ont des qui ont des passages, des grands, des beaux passages, ouais, mais qui ne sont pas faits pour durer dans le haut niveau. L'OM, c'est un club qui reviendra. Et je pense que cet héritage-là qu'a laissé Longoria, ça sera, c'est un héritage intéressant pour le futur. Mmh. Et là, on le voit avec Benatia qui mène ce mercato. Ben, c'est recruté voilà, par exemple en Norvège. C'est une idée qui est intéressante. Après, voilà, on verra. Seul le terrain parlera pour savoir si c'est positif ou négatif. Mais voilà, il a laissé, moi, je trouve que l'héritage de Longoria sur cet aspect-là est très positif. Après, si on parle de l'effectif actuellement, non. Il fallait bien aussi que le système s'arrête à un moment donné, que c'est forcément les remises en cause et la critique arrivent au moment où tes résultats ne marchent pas. Mais je trouve que l'héritage culturel qu'il a laissé est très intéressant. Il a enrichi l'OM sur cet aspect-là. Il a apporté de la continuité en termes de résultats malgré tout, malgré son manque de continuité dans ses politiques sportives. Et ça, c'est quand même... et ça montre aussi un certain talent. Au final, tu vois, moi, j'ai toujours dit que Pablo Longoria, au final, ça aurait été un directeur sportif de très, très grande qualité. Mmh. Il aurait fallu un président, un Pape Diouf un peu au-dessus, qui puisse un peu cadrer les choses, tu vois. Qui puisse se dire, voilà, Pablo, là, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, fais ce coup-là. Mais là, il faut garder un peu de continuité, sinon on va tout perdre. Je pense qu'il aurait fallu peut-être un président un peu au-dessus, voilà, et qui puisse aussi être garant des relations avec les institutions.
Sur ça, on est d'accord, Yacine.
C'est ma vision. Mais dans l'ensemble, c'est un bilan quand même vraiment très positif pour moi.
Moi, pour donner mon petit bilan, je trouve que globalement, le bilan est positif. Il suffit juste de regarder dans quel état était l'OM au moment où il arrive et au moment où il repart. L'OM qui certes s'était qualifié en Ligue des Champions grâce à une saison exploit où l'OM avait profité des faiblesses de ses concurrents, mais aussi l'OM était dans un esprit revanchard avec un coach fédérateur, André Villas-Boas. Et il part avec un OM qui est quand même stable au niveau du classement, même si je pense que, comme souvent, le bilan sera énormément conditionné par la fin de cette saison. Si tu prends une Coupe de France et que tu finis sur le podium, bah, y en a qui vont dire que Longoria est peut-être un des meilleurs présidents de l'histoire de l'OM. Et si tu finis 8e, le discours sera tout autre. Donc c'est ça, malheureusement, aussi.
Après, au Arriles, quelque chose qui est très, très important aussi à savoir, c'est que... Les supporters, quand ils prendront plus de recul, ils vivront...
Oui, on comprendra plus tard.
Tu sais, regarde bien un exemple, Villas-Boas, moi j'étais, j'assume par contre que je ne suis pas pro-Longoria, mais j'assume que j'étais pro-Villas-Boas, ça, j'ai aucun problème à le dire, j'adorais ce coach, mais Villas-Boas a été critiqué au moment de son départ, et aujourd'hui, tu regardes bien sur l'opinion...
Il avait raison.
Aujourd'hui, il est adoré par les supporters. Deschamps a été critiqué au moment de son départ. Tu regardes aujourd'hui, il est adoré par les supporters. Avec le temps, fait aussi son travail. Quand il y a un peu d'émotion, forcément, l'humain est un peu plus biaisé. Sur Longoria, je pense que les gens reconnaîtront son travail quelques années après son départ. Tu vois, ça, j'ai aucun doute. Mais là, à l'instant présent, il est critiqué parce que les gens regardent ce qui s'est passé au dernier mercato et ce dernier temps.
Mais en tout cas, Yacine. Pour revenir sur son bilan, je trouve que en Ligue 1, il a quand même stabilisé le club dans les trois premières places. T'as enchaîné deux podiums, qui n'était pas le cas depuis un certain temps. Depuis l'époque de Deschamps. Au-delà de ça, moi, je parle en termes de style de jeu parce que oui, la continuité, il n'y avait pas de continuité. Pour moi, c'est le plus gros problème de son projet. Il y avait une instabilité d'effectif. Mais au niveau des nominations de coach, elles sont vraiment jamais inintéressantes. Même Marcelino, je dis qu'il n'y a pas de continuité. Si tu te mets dans un monde où avant Marcelino, en fait, tu peux signer Marcelino en ayant une forme de continuité, l'idée de le nommer n'est pas conne. Tudor, pour moi, c'est un événement marquant de ma vie de supporter de l'Olympique de Marseille parce que, en fait, avant que Tudor arrive, j'avais l'idée qu'à l'OM, je voulais un jeu vertical, intense, avec du pressing. Et en fait, Tudor a coché toutes ces cases.
C'est du football allemand.
Ouais, et même c'était un peu du football total, en fait, t'avais... Si, c'était allemand, c'était italien en même temps, mais c'était une synthèse d'un football offensif, d'un football très offensif, très intense. Et franchement, ça m'a changé ma... Enfin, ça a confirmé ma vision de l'Olympique de Marseille, mais ça l'a surtout précisé. C'est que je pense que maintenant, à l'avenir, je voudrais un OM qui joue dans une défense à 3, qui presse, qui est intense, qui a un jeu très moderne, et en fait, qui a surtout un gros collectif. Comme on l'a pu voir, qu'on avait pu le voir sur certains matchs de Tudor, notamment le match face au PSG en Coupe de France, qui est pour moi un des plus grands matchs de l'Olympique de Marseille sur les 10 dernières années. Je pense qu'il faut, faut...
Et ce
même
qui est
si on
très intéressant, tu vois, et en fait, regarde, tu vois, nos analyses sont en train de se compléter au fur et à mesure. Et c'est très intéressant, je trouve. Je partage ton avis, hein, sur le, sur ta vision football de l'OM. Même si, bon, moi, j'ai plus été marqué par l'OM de Deschamps qui prenait l'efficacité à l'époque. Mais il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'au final, quand je regarde ce que tu viens de dire sur Longoria, c'est Longoria, au final, c'est pas par incompétence. En fait, c'est quelqu'un qui a une vraie vision football, même dans ses choix, mais qui a eu besoin d'être un peu plus cadré au final. C'est ça.
Exactement. Exactement.
C'est ça qui est très intéressant, en fait. Et c'est ça qui a manqué au final. On ne parle pas d'un mec incompétent, on parle d'un mec qui est très intelligent, qui connaît très 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 bien le football, mais qui à un certain moment a manqué de continuité par manque de cadrage. Et c'est ça ce qui a un peu manqué au final. Et c'est ça qui est frustrant, en fait. C'est que là où je pense qu'il y a un peu plus de frustration avec Longoria, c'est que c'est à la limite, si ça venait d'un coach, d'un président qui ne connaissait pas le football, voilà. Bon. Mais là, on
Et
parle
nous,
de
on a
quelqu'un.
vu qu'il connaissait le football, justement.
Exactement. Mais avec un peu plus de cadrage, son projet aurait pu être plus efficace. Et c'est ça qui. Je trouve que c'est tout l'intérêt de ce débat, c'est que les choses ne sont pas blanches ou noires. Il n'y a pas de pro, enfin, il n'y a pas être pro-Longoria ou anti-Longoria. Quand on regarde son bilan, il est extrêmement intéressant. Mais au final, quand tu constates, c'est que tu es face à un mec qui connaît très très bien les choses, mais qui a manqué de cadrage, de continuité, pour que son projet marche encore un peu plus, ou marche plus durablement.
Non, on est globalement d'accord, Yacine, sur au final, dans l'analyse, l'avis final, je pense qu'il est. Il est différent parce que toi, Yacine, du coup, bah, pour expliquer rapidement, toi, ces derniers mois, tu t'es montré très positif pour expliquer un peu
Bien
ta
sûr.
vision à nos auditeurs qui, pour certains, je pense, comprennent totalement ton point de vue. D'autres qui ont. Bah, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, Yacine, sur comment on a commencé à se parler. C'est qu'au début, moi, je ne comprenais pas forcément ton point de vue
Bien sûr.
sur tes tweets. Je me disais que c'était un peu enjolivé, même me demander si tu avais parlé avec Pablo Longoria pour autant le soutenir. Et en fait, c'est un point de vue qui s'entend tout à fait, qui est plutôt dans une forme de positivisme et qui est assez intéressant. C'est que toi, du coup, tu pars du principe que Longoria, c'était une bonne chose pour l'OM. Je te laisse expliquer justement, je te laisse ton point de vue dans l'analyse que tu as eue ces derniers mois.
Oui, j'assume que j'ai été positif pour la simple et bonne raison que j'estime que l'OM a encore les moyens de revenir sur le podium. Parce que dans cette saison, elle est très faible. Il suffit d'être moins mauvais que les autres. Et oui, l'OM peut revenir dans la partie. Et en fait, je pense que c'est très important d'être de manière continue en Ligue des Champions pour avoir une certaine manne financière et en même temps étouffer tes concurrents. Et cette saison. L'OM peut malgré tout le faire. Il faut se rappeler que l'Olympique Lyonnais en 2015-2016 fait un début de saison catastrophique où ils sont quasiment au même nombre de points que l'OM de Mitchell à la mi-saison. Et pourtant, ils arrivent à finir deuxième sur le podium et tout le monde oublie que ça commence très mal. Ils finissent deuxième avec 65 points. C'est peut-être le plus faible deuxième dans l'histoire moderne de la Ligue 1. Et ils finissent deux fois sur le podium et au final, ils arrivent derrière à acheter d'autres très bons joueurs. Donc, ma vision, elle est là. C'est que quelquefois en Ligue 1, il ne suffit pas d'être meilleur que les autres, mais d'être moins mauvais que les autres. Et le Nice actuellement, ou Monaco, ne me semble pas hors de portée. Après, à l'OM de pouvoir enchaîner des résultats, je pense que dans cette Ligue 1, l'OM en est complètement capable. Mais il faut aussi dire la vérité, c'est que ça peut surprendre ce que je vais dire, mais les réseaux sociaux ont une incidence sur, du moins simplement sur les joueurs, qui ont tous des petits comptes. officiels ou cachés, sur les dirigeants aussi. Ils ont tous leur compte. Les réseaux sociaux influencent beaucoup sur l'Olympique de Marseille. Et forcément, il faut créer un climat positif. Il faut créer une union pour que l'OM puisse en sortir. Après, les mots de l'OM doivent se régler en fin de saison. Je pense que ce n'est pas le moment de laver le linge sale
pour
la place publique.
Mais en tout cas, Yacine, c'était très intéressant. Finalement, le bilan qu'on peut en tenir, c'est que le passage de Longoria ne sera pas... Malgré le fait qu'il y ait une forme d'autodestruction d'un projet qui était très intéressant au début, sera quand même intéressant à analyser. C'est pas une période éphémère où l'OM a bien travaillé pendant un certain moment puis on est revenu à la normale. Il y aura vraiment des leçons à en tirer pour les prochains dirigeants de l'OM, parce que qu'on le veuille ou non, Longoria est un personnage assez innovant dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il y aura un avant et un après Pablo Longoria, comme il y a eu un avant et un après Pape Diouf. Alors, on ne le met clairement pas sur le même piédestal qu'un Bernard Tapie ou un Pape Diouf, comme certains supporters ont voulu le mettre au début de son mandat. Mais en tout cas, c'est un passage marquant déjà de par le temps de son mandat. Quand même un président qui va faire 2021-2024. S'il part, peut-être qu'il va rester. Je crois pas qu'il y ait énormément de présidents de l'Olympique de Marseille qui aient fait 3 ans au club. C'est peut-être même le plus long mandat avec Labrune et JHE au 21e siècle et Pape Diouf. Donc il fait indéniablement partie des présidents qui ont marqué l'histoire de l'OM. Mais voilà, donc c'est très intéressant, surtout pour ceux qui vont lui succéder, de se servir des leçons du passage de Longoria. Longoria avait eu à apprendre des erreurs de JHE. Je pense que les successeurs de Longoria auront à apprendre tant des erreurs sur le cadrage d'un projet sportif que des réussites sur la gestion de certains mercato, sur les idées qui ont été éparpillées. Tu vois, Yacine, on a parlé des coachs, mais en soi, le fait que tu aies eu 3 coachs différents, ça t'a aussi permis de préciser la philosophie que l'Olympique de Marseille doit avoir. C'est-à-dire que c'est plus du Tudor pour moi personnellement, pour certains, ça a pu être du Sampaoli. Et du coup, pour le prochain président qui viendra à l'OM, il saura qu'il faut plus aller sur telle chose. Il saura qu'il ne faut plus gérer de telle manière. Et donc, Longoria apporte quand même sa pierre à l'édifice dans l'avancement de l'Olympique de Marseille, même si avec un déchet résiduel qui grossit ces derniers mois. Mais voilà. Mais je pense quand même, pour finir, que ce sera énormément conditionné par la fin. Parce que si tu es 8e en fin de saison, ça va être plus difficile pour le mec qui va recommencer. Et la vision que les supporters auront sera plus difficile. Mais si tu accroches l'Europe et dans le meilleur des cas le podium, ça fera 3 podiums d'affilée. Et ça sera juste, d'un point de vue comptable, en tout cas, quelque chose de
remarquable. Oui, tout à fait. J'aurais pas mieux conclu, mais je partage ton avis.
En tout cas, c'était vraiment super sympa, Yacine. Je te remercie énormément.
C'était très enrichissant, ce débat, cet échange. J'ai été très enrichissant, très intéressant. J'ai rarement pu autant développer ce que je pensais de la présidence de Pablo Longoria. Je trouve que nos échanges ont été très, très enrichissants, très intéressants. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est plus d'écouter en amont l'argumentation, plus que les prises de position, parce qu'il y a même des argumentations sur lesquelles on est complètement d'accord, mais on a peut-être un angle de vue qui est différent. Mais je trouve que ça a été un échange très, très enrichissant.
Ouais, pareil pour moi, j'espère qu'on pourra en refaire à l'avenir avec
grand plaisir.
Avec d'autres personnes, parce que je trouve que le format est super, super intéressant. J'espère que ceux qui nous ont écoutés auront pas mal apprécié cet échange. Surtout, je pense que c'est un podcast qui va avoir une durée de vie assez longue. Je pense que les gens pourront l'écouter sur les 6 prochains mois, même après le départ de Longoria. On a quand même traité d'une thématique assez générale, en abordant à peu près tous les aspects. En tout cas, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller suivre Yacine sur Twitter. Je pense qu'on va essayer de faire d'autres choses, hein, Yacine, vu qu'on se rapproche un peu sur nos idées, notre conception de ce que doit être le traitement de l'actualité de l'Olympique de Marseille et même de l'analyse. Même si on n'a pas les mêmes avis, on a la même idée que le débat est essentiel et qu'il a été assez négligé, je trouve, ces dernières années autour de l'Olympique de Marseille, plutôt en se polarisant sur des situations, sur des thématiques données, que ce soit des joueurs comme par exemple Bayardi, ou comme c'est le cas actuellement sur Longoria, et on a justement pris un des sujets les plus sensibles du moment, et débattu et arrivé à cette synthèse qui, je pense, est très cohérente si on suit, tout le fil de cette discussion. Donc voilà. N'hésitez pas à aller écouter d'autres podcasts. On aura d'autres qui vont sortir. Si vous ne connaissiez pas notre format et que vous connaissiez notre média, sachez que on sort des podcasts toutes les semaines. Si vous connaissez le podcast mais vous connaissez pas notre média, allez nous suivre sur Instagram et sur Twitter où on est un peu moins actif. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine. Merci Yacine.
Merci à toi, Vilas. Merci à Massilazon. Et merci à tout le monde.
Merci à tous. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.